Le frère est allé me chercher une grosse tarte aux cerises, toute chaude. Je vous le dis, ça rapporte de faire des allusions. Et il a dit, « Mon, qu'en penses-tu, Fresneville ?» Voilà, voyez-vous, on dirait que la tarte aux cerises est un peu la préférée. C'est vraiment bon. Comme je le dis au sujet de la tarte aux cerises, eh bien, quand on en mange, les dents s'arrêtent parfois sur un noyau. Eh bien, je ne jette pas la tarte, je jette seulement le noyau et je continue à manger ma tarte aux cerises. J'aimerais que vous fassiez la même chose au sujet de ces messages. Quand vous aurez, avançons ensemble, quand vous arriverez à quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas digérer, eh bien là, c'est juste, ne jetez pas tout, jetez seulement cette partie-là, le noyau, et continuez à manger la tarte. Tout simplement, eh bien, une fois que vous apprenez. Ah oui, quand vous aimez le poulet frit, presque tout le monde aime ça. Eh bien, alors, quand vous mangez du poulet et que vous tombez sur un os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez seulement l'os. Pas vrai, Pat? Vous jetez seulement l'os et vous continuez à manger le poulet. Eh bien, nous sommes heureux parce que nous pouvons manger de la nourriture qui n'a ni os ni noyau là-dedans. Des gâteaux sont descendus du ciel, appelés manne. Ils étaient entièrement imbibés de la douceur du ciel. Vous savez, je crois que c'est David qui a dit un jour, « Cela a le goût du miel du rocher ». Je crois que le poète a dit, « C'est le miel du rocher ». Oh, mon frère, avez-vous goûté le... Voyez le... Comme, « A le goût du miel du rocher ». Le miel du rocher, mon frère. C'est ainsi. Bon, vous savez, je me suis demandé une fois ce que cela signifiait, le miel du rocher. Et je me suis dit, eh bien, peut-être qu'un jour, ils ont trouvé une ruche sur un rocher. Mais à force d'examiner cela, j'ai eu une petite inspiration là-dessus. Pas au moment où cela me préoccupait, mais plus tard, j'ai découvert que chacun des bergers qui avait des brebis, il y a quelque chose à ce sujet, vous savez, nos corps sont faits de la poussière de la terre, tous les êtres vivants sont tirés de la terre. C'est que ces bergers croyaient que le calcaire soulageait la brebis quand elle avait quelque chose qui n'allait pas, vous savez, quand elle était malade ou quelque chose. Ils les amenaient à lécher le rocher. Vous avez vu des brebis faire ça, aller lécher le rocher. Et pour faire en sorte que les brebis lèchent le rocher, ils versaient du miel sur le rocher. Et là, quand les brebis se mettaient à lécher le miel, alors elles léchaient aussi le rocher, voyez-vous, tout en léchant le miel. Eh bien, nous avons ici un sac rempli de miel. Nous allons le mettre sur le rocher, pas sur une quelconque église, sur le rocher, Jésus-Christ. Et vous, les brebis, allez-y, léchez maintenant. Vous allez certainement vous rétablir sur le champ. Tous les maux causés par le péché disparaîtront quand vous lécherez le rocher. C'est tout ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose au sujet du rocher. C'est qu'il contient la guérison. La guérison. Autrefois, avant d'inventer les vaccins contre la rage, on utilisait ce qu'on appelait la pierre antirabique. Quand quelqu'un se faisait mordre par un chien enragé, eh bien, on mettait cette pierre antirabique sur lui. Alors, si la pierre antirabique, s'il restait collé sur la pierre antirabique, il guérissait. Si elle ne collait pas, alors le malade était à un stade trop avancé. Il mourait. Donc, c'est encore comme ça aujourd'hui. La pire morsure que je connaisse n'est pas celle d'un chien enragé, mais celle du diable. Et nous avons une pierre pour ça, le rocher des âges. Cramponnez-vous-y simplement. Tant que vous vous cramponnez, vous guérirez. Ne lâchez jamais prise et n'abandonnez jamais. Continuez à vous cramponner. Accrochez-vous-y et vous irez très bien. Maintenant, avant d'aborder notre leçon de ce soir, nous aimerions nous lever juste un instant, si possible, pour un mot de prière. Vous n'êtes pas la sœur de Robert Daugherty, n'est-ce pas? Ici. Elle m'a appelé hier, je crois, et m'a dit qu'elle désirait qu'on prie pour elle. Et je ne savais pas, vous lui ressembliez un peu. Je ne savais pas si vous étiez cette femme ou pas. Je vous ai vu ici hier soir. Maintenant, combien aimerait qu'on se souvienne d'eux devant Dieu, ou plutôt que Dieu se souvienne d'eux? Juste, notre Père Céleste, comme notre petit conducteur de chant à Chicago avait l'habitude de chanter, « Souviens-toi de moi quand mes larmes coulent. Seigneur, souviens-toi de moi maintenant. À l'heure de la mort, dans le Tout au long de la vie, nous aimerions que tu te souviennes de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, non pas en tant que pécheurs que nous sommes, mais nous voulons que tu te souviennes de nous en tant que chrétiens de confession, que nous avons accepté Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, en tant que, comme victime expiatoire pour nos péchés. En effet, nous savons que c'est la seule possibilité que nous avons, le seul chemin, le seul moyen pour notre salut. Ce n'est pas par une église quelconque, ou par un dispositif mécanique quelconque, ou par une organisation, mais par Jésus-Christ, et lui seul. Ainsi, nous approchons-nous en son nom ce soir, et nous te demandons de nous bénir, alors que nous sommes réunis pour étudier ta parole, et pour connaître ce que tu en réserves pour nous ce soir. Ainsi, nos corps spirituels seront édifiés, afin que nous soyons une église vivante. Une église dans laquelle tu pourrais vivre, entrer, être à l'aise, marcher au milieu de ton peuple, nous dire quoi faire, et savoir que nous le ferions immédiatement. Nous t'aimons, ô Père, mais nous savons que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour que tu parles par nous comme tu le voudrais. Aussi te prions-nous de nous circoncire, c'est-à-dire d'ôter de nous ce soir toute folie, toute chair superflue, afin que nous soyons entièrement consacrés à toi et que tu puisses nous utiliser en tout temps. Nous prions que ce soir soit le moment propice, ô Père, où tu te serviras de nous pour prendre ces pépites de la Bible, les polir et faire en sorte que les gens voient le reflet de Christ dans ce grand âge de l'Église. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous avons donc parcouru les âges de l'Église jusqu'à l'âge de l'Église de ce soir, qui est le sixième âge de l'Église. Nous terminerons les âges de l'Église demain soir. Nous en aurons étudié un par soir, de lundi à dimanche. Et l'âge de l'Église dont il est question ce soir, c'est l'âge de l'Église de Philadelphie. Et l'étoile ou le messager, l'ange messager de cet âge de l'Église, nous croyons absolument de tout notre cœur que c'est John Wesley. Cet âge de l'Église a commencé en 1750, quand l'âge de l'Église luthérienne a pris fin, et a duré jusqu'autour de 1900, vers l'an 1906 après Jésus-Christ, l'âge de l'Église wesleyenne. Ensuite, après cela, vient Laodicée. Maintenant, cet âge, c'est l'âge de l'Église de l'amour fraternel, le grand âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte. La récompense, c'est une colonne, faire de lui une colonne, et la révélation de trois noms, le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu, et le nom nouveau de Dieu. Voilà la révélation qui a été donnée à cette Église dans cet âge. Et maintenant, l'Église, cet âge se trouve dans Apocalypse 3, 7, jusqu'au verset 13, le verset 13 inclus. Apocalypse 3, 7 à 13. Bon, chaque soir, nous revenons un peu en arrière pour récapituler ces choses. Le premier âge de l'Église, c'était l'âge de l'Église d'Éphèse. Quelqu'un peut-il rapidement dire qui était l'ange ou la lumière, le ministre de cet âge de l'Église? Paul. L'âge de l'Église d'Éphèse, de l'an 55 après Jésus-Christ à l'an 170. J'ai situé cela en l'an 55, parce que c'est à ce moment-là qu'il a commencé ses voyages missionnaires. Et c'est alors qu'il a établi l'église d'Éphèse et les autres églises là-bas. Eh bien, le deuxième âge de l'église, c'est Smyrne. Quelqu'un se rappelle-t-il de celui qui était l'ange de cet âge de l'église? N'importe qui dans l'auditoire? Irénée. C'est juste. Très bien. C'était de l'an 170 à l'an 312. Le troisième âge de l'église, c'est l'âge de l'église de Pergame. Quelqu'un dans l'auditoire se rappelle-t-il celui qui était le saint de cet âge de l'église? Saint Martin, c'est juste, de l'an 312 à l'an 606. Et puis, l'âge de l'église suivant, c'est Thyatire. Quelqu'un se rappelle-t-il le saint, le messager, l'ange de cet âge? Colomba, c'est juste, de l'an 606 à l'an 1515. Le suivant était l'âge de l'église de Sardes, que l'on a vu hier soir. Quelqu'un, bien sûr, vous savez, qui était l'ange de cet âge de l'Église. Vous en souvenez-vous? Martin Luther. Le sien, c'était de 1520 à 1750. Et ce soir, nous étudions l'âge de l'Église de Philadelphie. C'est celui de John Wesley. C'est lui le messager de cette époque-là, de l'an 1750 à l'an 1906, après Jésus-Christ. C'est l'âge de l'amour fraternel. Bon, nous voyons que chacune de ces églises, de ces âges de l'Église, exprimait la caractéristique de cette Église-là. Elle indiquait ce qu'était cette Église, le caractère de cette Église, ou plutôt les caractéristiques de cette Église. Bon, hier soir, c'était Martin Luther. La raison pour laquelle je répète cela, c'est que les frères enregistrent cela. Je passe toute la journée à étudier. Vous me direz, toute une journée pour le petit aperçu historique que vous donnez ici? Non, les faits historiques seront mis dans le livre, voyez-vous. La raison pour laquelle je viens ici, c'est pour parler de ces choses sous inspiration, alors que je me tiens devant vous. Quand nous nous réunissons, c'est pour en recevoir ce qui est inspiré. Les faits historiques, je peux les lire dans des livres, mais ici, je m'attends à l'inspiration. Puis nous récupérons ce qui était dit sur la bande. Et là, dans le livre, nous aurons donc à la fois les données historiques là-dessus et aussi l'inspiration que le Saint-Esprit nous aura donnée pendant que nous étions réunis ici, dans ces lieux célestes en Jésus-Christ. Et je crois que ça devrait être un petit commentaire frappant sur ces âges de l'Église. Que le Seigneur accorde ses bénédictions à cela. Maintenant, hier soir, l'âge de l'Église, c'était l'âge de l'Église de Sardes. Et en grec, cela signifie en fait le rescapé. Mais je crois qu'en anglais, on traduit cela par ce qui est mort. Eh bien, c'était à la fois une Église morte et rescapée. Parce que cette Église était morte sous le règne papal pendant les 1500 ans ou 1520 du long règne papal qu'on appelle l'âge des ténèbres, où le christianisme était au niveau le plus bas qu'il ait jamais été ou ne sera jamais, même dans l'âge de l'Église de Laodicée. Maintenant, il y a cependant quelque chose de frappant. Gardez à l'esprit que dès qu'un âge de l'Église commence, tout ce qu'on trouve dans cet âge de l'Église se retrouve dans tous les autres âges de l'Église, et tous ces âges de l'Église se chevauchent. Si vous étudiez attentivement l'histoire dans les livres, vous constaterez cela. C'est comme des couches qui se superposent les unes sur les autres, comme ceci. Et quand un âge d'Église prend fin, l'ange qui se tient entre les deux vient pour ramener cette Église à la foi qu'elle avait perdue autrefois. Il en a toujours été ainsi. Regardez dans Jude, le dernier livre de la Bible, voyez, juste avant l'Apocalypse. Jude a dit, « Je vous ai écrit afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. » C'est le chevauchement entre les apôtres et la venue de l'Apocalypse, puisque la plupart des apôtres étaient morts à ce moment-là. Vous voyez, il n'était plus. Celui qui était vivant à ce moment-là, c'était l'apôtre Jean. C'est lui, le révélateur ou l'écrivain, qui a reçu de l'ange du Seigneur la révélation, afin d'écrire le livre de l'Apocalypse. Donc, voyez, il y a un chevauchement entre eux. Ainsi donc, vous avez dû le remarquer, et je pense que vous avez saisi cela au fur et à mesure que nous avancions et que je le mentionnais. Ainsi, même ici, dans l'âge de Sardes, c'est l'âge du mariage. En fait, l'Église n'a jamais vraiment vu le jour complètement avant Thyatire, mais elle s'est mariée à Sardes. Et Sardes signifie être dans un mariage. Maintenant, si vous remarquez, elle s'est mariée ici. Il y a eu un chevauchement dans cet âge-là. Et si vous le remarquez, hier soir, quand Luther est sorti, il avait un nom mort, un nom de mort, et ensuite des rescapés. Vous voyez, il y avait l'Église morte qui sortait d'ici, et le petit reste des rescapés qui avait été amené dans cet âge ici. Et ce soir, quand nous arriverons au terme de l'âge de Philadelphie, cela marquera le début de l'âge de Laodicée. Et demain soir, quand on arrivera au terme de « juste à la fin », remarquez, l'ange apparaît tout juste au temps de la fin, exactement au temps de la fin, pour réprimander l'Église d'avoir perdu son premier amour et de s'être éloignée de Dieu comme elle l'a fait tout au long des âges. Et à ce moment-là, l'enlèvement vient pour amener l'Église à la maison. L'Église monte précisément au temps du message. Donc, nous nous approchons de cet âge maintenant. Avez-vous saisi cela? Très bien. Voyez? Très bien. Vous voyez, tout juste au moment où l'ange de l'Église, le messager de l'âge, vient pour les réprimander d'avoir perdu leur premier amour. Ramenez, essayez de les ramener. C'est la même chose que ce messager fait ce soir. L'ange messager revient pour les réprimander. C'est ce qu'il en est à chaque âge, à cause de ce qu'ils ont fait. Il y a donc un chevauchement dans chacun des âges de l'Église. Ils se chevauchent l'un l'autre comme ça. C'est comme monter les marches, elles se chevauchent comme ça en montant. Maintenant, je n'ai ici qu'un petit aperçu de l'histoire du messager de ce soir, John Wesley. John Wesley était l'étoile de cet âge. Il est né le 17 juin 1703 au presbytère d'Epworth, en Angleterre. Il était le 15e d'une famille de 19 enfants. Son père et sa mère s'appelaient John et Susanna Wesley. Son père était un prédicateur, sa mère une sainte consacrée. Bien qu'elle devait prendre soin de ses 19 enfants, elle trouvait beaucoup de temps au cours de sa journée chargée pour enseigner à ses enfants des leçons de la Bible, des histoires bibliques et pour prier pour eux. C'est ce qui a fait de ces garçons ce qu'ils sont devenus. Le grand compositeur de cantiques, Charles, son frère, est de ceux qui ont donné au monde les cantiques les plus inspirés que nous ayons jamais eus. John était le collaborateur de George Whitefield. John Wesley et George Whitefield sont en fait les fondateurs du méthodisme ou de la sanctification. John se levait tôt tous les matins. Pendant 60 ans, il s'est levé tous les matins à 4 heures. Voilà une chose dont l'Église s'est éloignée. Pendant 50 ans, sans interruption, il s'est levé tous les jours à 4 heures et a prêché à 5 heures du matin. Et parfois, il prêchait 2 à 4 fois par jour. En Angleterre, on dit que il parcourait à cheval 4 500 milles anglais, 9 450 kilomètres, chaque année, pour prêcher l'Évangile. 4 500 milles à dos de... Ce sont des milles anglais, vous savez. Ils sont plus longs que les nôtres, pour prêcher l'Évangile. Beaucoup de livres de sa diffamatoire avaient été écrits à son sujet, en son jour, pour le diffamer, se moquer de lui. Mais là, ils sont tombés dans les oubliettes depuis longtemps, tout comme leurs auteurs. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un enfant de Dieu et vous en tirer sans conséquence. Vous donnez des coups d'épée dans l'eau. Dieu les fera arriver à bon port de toute façon. On l'appelait méthodiste à cause de ses façons de procéder. Au cours de sa vie, dit-on, il a prêché plus de 40 000 sermons. Pensez-y. 40 000 sermons. Peu après sa mort, en 1791, la dénomination méthodiste a pris racine dans le monde et a lancé l'Église méthodiste. Et bien sûr, Asbury et bien d'autres étaient là à l'époque. Maintenant, si nous remarquons la salutation adressée à cette Église, là, nous commençons maintenant au verset 7. Au messager de Philadelphie, la vraie église au sein de l'église qui professait l'être. C'était une vraie église au sein de celle qui le professait. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Eh bien, J'ai attiré votre attention sur le fait que ces âges se chevauchent. Maintenant, vous verrez ici l'ange. Si vous observez la façon dont il a introduit l'âge de l'âge méthodiste, fait un chevauchement et se prolonge un peu dans l'âge de Philadelphie ou de Laodicée, l'âge pentecôtiste. Alors, demain soir, le messager de la Pentecôte entrera en scène pour les réprimander d'avoir rétrogradé, tout comme dans cet âge, on les a réprimandés d'avoir rétrogradé ici, à Sardes, dans l'âge luthérien. C'est un chevauchement. L'amour fraternel, c'était un grand âge de missionnaires et de missions. Le monde n'a jamais rien connu de tel. Son impact se fait encore ressentir dans notre époque actuelle. En fait, le monde n'a jamais connu une période comme celle-là où il y avait des missionnaires partout. Au cours des dernières, qu'au cours des 150 dernières années, c'est l'une des époques les plus marquantes de l'histoire du monde, où les missionnaires ont apporté l'Évangile aux quatre coins du monde. Cela a été, en réalité, simplement aller répandre le message de l'Évangile dans des journaux, des tracts, des livres et tout. Il y a bien longtemps que l'Évangile a été apporté à toutes les nations qui sont sous les cieux. Bien longtemps. Vous voyez donc que cela prouve que ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Il n'a jamais dit « Allez par tout le monde et établissez des instituts bibliques ». Il n'a pas dit non plus « Allez par tout le monde et distribuez de la littérature ». Ces choses sont bonnes. Mais sa commission à l'Église, c'était « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile ». Or, l'Évangile, ce n'est pas uniquement la parole, mais ça, c'est donner vie à la parole. Voyez, en effet, Jésus a dit tout de suite après, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Vous savez, dans Marc 16, sa dernière commission à l'Église, c'était « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Sa première commission à l'Église, dans Matthieu, chapitre 10, c'était « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et son dernier message à l'Église, c'était « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » N'est-il pas étrange que beaucoup retranchent cette partie-là ? Est une conjonction qui vous permet de relier vos phrases, voyez-vous ? Alors il a dit « Bon nombre de ministres diront, allez prêcher l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui les accompagneront. Qui les accompagneront? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Les miracles du Dieu vivant qui s'opèrent parmi les gens. Oh, jusqu'où? Par tout le monde. Vous saisissez? Par tout le monde. C'est pourquoi, quand je dis que le message de la Pentecôte, pas l'organisation pentecôtiste là, le message de la Pentecôte, c'est le seul vrai message de Dieu. Maintenant, regardez là, dans Marc 16, si vous êtes en train de le lire, très bien, c'est exactement là que Jésus a commissionné son Église. Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. Voici les miracles, parler en langue, guérir les malades, accomplir des miracles. Ils se feront jusqu'où? Par tout le monde. Chez combien de personnes? À toute la création. C'est du début jusqu'ici à la fin. Jusqu'à la fin. Très bien. Voici les miracles qui accompagneront uniquement cette Église-ci, ceux qui croiront, par tout le monde, à toute la création. Voici les miracles qui les accompagneront, pas ceux-ci, ceux qui auront cru. C'est donc une Église de la Pentecôte. Voyez, maintenant, nous traitons de cet âge-ci, celui dont il est question ce soir, Philadelphie. P-H-I-L, l'âge de l'église de Philadelphie. C'est au cours de cet âge-là que les missionnaires ont évangélisé et distribuer de la littérature dans le monde entier. Jésus a dit, quand cet évangile sera prêché, cet évangile sera prêché dans le monde entier pour me servir de témoignage, alors viendra la fin. Eh bien, alors, si c'est de cela qu'il parlait, distribuer de la littérature, envoyer des missionnaires pour apprendre aux gens à lire, à écrire et à compter, distribuer des tracts, amener les gens à se serrer la main et à croire que Dieu existe, si c'est tout ce dont il était question, alors sa venue aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Oui, cela montre donc que l'évangile, Paul a dit, l'évangile n'a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance et avec la manifestation du Saint-Esprit. Alors, quand Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile, il voulait dire, allez par tout le monde et faites-en la démonstration. Oh, j'aime cela. Faites la démonstration de la puissance de l'évangile. Prenez la parole, ce qu'elle dit, montrez aux gens ce qu'elle dit, puis manifestez-la devant eux. Oh, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui en donne la preuve. Oh, quand le grand Maurice Reedhead s'est tenu là, dans mon bureau ce jour-là, le président des missions du Soudan, la plus grande mission au monde, il a dit, « Frère Branham, vous qui êtes baptiste, vous devriez savoir ce qu'est la vérité. » J'ai dit, « La Bible est la vérité. » Il a dit, « Eh bien, il a dit, ces pentecôtistes, qu'est-ce qu'ils ont ?» J'ai dit, « Le Saint-Esprit. » Voyez. Alors il a dit, « Oh, je les ai vus briser les meubles, renverser les choses du pied. » J'ai dit, « Oui, ce qu'il y a, c'est que vous autres, vous vous tenez à l'écart, vous vous isolez et vous restez bien loin d'eux. Ils ont beaucoup de vapeur. Ils pourraient faire tourner la roue, faire quelque chose, mais ils laissent cela s'échapper par le sifflet. Voyez-vous ? » J'ai dit, « Si seulement ils l'utilisaient là, en bas, ils auraient des signes, des prodiges, des miracles et tout, mais ils ne savent pas quoi en faire. Il faut bien que cela aille quelque part. » Alors il la laisse sortir en criant et l'évacue. Je préférerais l'évacuer plutôt que de la retenir ou de ne pas avoir de vapeur évacuée. Pas vous ? Comme un vieillard avait l'habitude de dire, je préfère avoir peur d'un petit feu de brousse, je préfère avoir un petit feu de brousse plutôt que de ne pas avoir de feu du tout. Le problème aujourd'hui, c'est que nous essayons de peindre un feu, de dire, vous savez, autrefois, au temps de la Pentecôte, ils ont fait ceci. Or, à quoi sert-il de montrer un homme gelé, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt de froid, la peinture d'un feu ? Ça ne l'aidera pas du tout. Non, vous devez. Ce qu'il lui faut, c'est un vrai feu. S'il existe une puissance de Dieu qui a amené les gens de la Pentecôte à œuvrer pour le Seigneur, à faire les œuvres et tous les miracles qui les accompagnaient. Si vous ne vous contentez pas de peindre un tableau, mais de faire en sorte que le tableau devienne une réalité pour eux, ils auront la même expérience, le même salut. Ils scelleront leur propre témoignage comme eux l'ont fait, voyez. Mais il faut bien que vous le leur apportiez. Il ne faut pas limiter cela à une autre génération de le passé, mais faire en sorte que cela se produise ici. Maintenant, nous voyons que cet âge de l'amour fraternel était un grand âge missionnaire. Jésus a dit, par tout le monde et à toute la création, et voici les miracles qui l'accompagneront. Maintenant, alors que nous avons parcouru l'histoire et la Bible, j'aimerais vous demander, n'a-t-on pas chaque soir, nous avons lu ici dans la Bible ce que Jésus a dit à Jean au sujet de ce qui arriverait. Et ici même, nous avons pris l'histoire et prouvé que c'est effectivement arrivé, très exactement. Et c'est pour cela que j'ai eu tant de mal à retrouver ces hommes, afin de repérer le serviteur de Dieu qui a dû porter ce message jusqu'au bout. Mais il était là. Il était là, exactement comme la Bible l'a dit. Il a gardé le message exactement comme au début, sans jamais le compromettre. Puis nous avons vu qu'il était presque rejeté, et il a appelé cet âge-là un âge mort, ténébreux et tout. Par la suite, une toute petite lumière en est sortie, et plus tard, un peu plus de force. Et après, on est de nouveau arrivé à la Pentecôte, la véritable expérience, tout juste au temps de la fin. Et là, l'épouse a été enlevée, elle est partie. Ensuite, la tribulation a recommencé. Très bien, la grande tribulation qui vient dans le monde entier. Donc, le grand âge missionnaire, l'amour fraternel, l'âge des missions. Permettez-moi de nommer quelques-uns de ces grands hommes. En fait, je viens d'écrire leurs noms ici. John Wesley, George Whitefield, vers 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, le grand missionnaire qui est allé en Inde en 1773, David Livingstone qui est allé en Afrique du Sud. Vous voyez, tous ces gens qui étaient du nombre de ces grands hommes, juste, j'ai les noms de beaucoup d'entre eux ici, ces grands hommes qui vivaient dans l'amour fraternel, l'homme noir, l'homme blanc, l'homme brun, l'homme jaune, il n'existait aucune barrière, et ces hommes sont allés dans les champs de mission. Mus par l'amour fraternel, ils tendaient la main à toutes les nations du monde, et elles leur ouvraient leurs portes pour qu'ils puissent y aller. Un autre âge de la porte ouverte, parce qu'ils ne pouvaient pas, avant ce temps-là, ils n'auraient pas pu le faire. Le pape, la papauté de Rome et tout, avaient tellement bien fermé les portes qu'il était impossible d'y aller. Mais dans cet âge-là, les portes étaient ouvertes, parce qu'il a dit que c'était un âge de la porte ouverte. Ils ont ouvert beaucoup de portes pendant cet âge-là, la porte de l'Évangile, la porte des champs missionnaires, la porte du retour à Christ, tout était ouvert pendant cet âge-là. Et vous pouvez voir ce qu'ils ont fait. Ces frères ont fait du bon travail. À partir de John Wesley, l'étoile qui est venue après l'âge de Sardes, après qu'il est venu et a réveillé ceux de l'âge de Sardes, il y a eu, au cours des 150 dernières années, de grands missionnaires, comme jamais auparavant, ou dans aucun autre âge précédent, qui ont parcouru la terre entière. Pensez-y, chaque nation sous les cieux a entendu la parole. Cela s'est accompli il y a de très nombreuses années, vous voyez. Mais ce n'était pas l'Évangile, c'était juste la parole. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie, voyez. Quand je me suis tenu en Afrique du Sud, ce jour-là, sur l'estrade, et que j'ai vu qu'il y avait là des milliers et des milliers de mahométans, j'avais rencontré un missionnaire qui travaillait parmi les mahométans, et ce missionnaire a dit, « Oh, pour cette chère âme !» Or, cet homme était là-bas depuis des années et des années, et il avait converti un mahométan à Christ. En effet, les mahométans sont issus des Mèdes et des Perses, et leurs lois sont irrévocables et immuables. Une fois qu'ils sont mahométans, ils sont mahométans pour toujours. Donc, là, il y avait cette âme dont parlait ce frère, qui se tenait là, dans la cour à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. C'est dans l'État libre d'Orange, et dans le Transvaal. Et nous sommes partis de là, jusqu'au Cap et à Bloemfontein, en suivant cet itinéraire-là. Puis nous sommes revenus par Grahamstown, East London, et ensuite nous sommes retournés à Johannesburg, après avoir quitté le Cap, et nous avons remonté la côte. Très bien, la dernière ville où nous sommes allés, c'était Durban. Là, nous avons rassemblé la plupart des indigènes. Il y avait là 150 ou 200 000 indigènes. Des mahométans, des indigènes, nous avions, ils avaient, il faut des semaines pour traverser l'hippodrome qui est beaucoup plus grand que celui de Churchill Downs, le deuxième plus grand au monde. Londres a le plus grand, suivi de l'Afrique du Sud et de Churchill Downs. Aussi, ils avaient érigé des clôtures parce qu'il y avait des guerres tribales et la police était là, 200 ou 300 gardes, à repousser chacune des tribus à l'intérieur des clôtures pour qu'elles ne se battent pas entre elles. Et ils les désarmaient, les dépouillaient de leurs lances, leurs sagaies et ces choses qu'ils avaient. Ils étaient assis là, à même le sol, et se regardaient les uns les autres par la clôture. Il y avait des guerres tribales. Leur chef, là, il les portait. Quelqu'un était là avec un grand éventail pour les éventer, comme ça, les reines aussi. La reine de la Rhodésie est venue avec 27 voitures, ou wagons de train, ou autocars, plein de gens de la Rhodésie, pour assister à la réunion. Et un train spécial est venu. Le Seigneur faisait de grandes choses, de grands prodiges et de grands miracles. Et qu'avons-nous vu? Sidney Smith, le maire de Durban. Nous faisions une promenade ce jour-là. J'ai dit, cet homme-là, qu'est-ce qu'il... Cette petite étiquette à son cou, autour du cou, c'était un homme de couleur, comme on l'appellerait ici, de race noire. C'est pour eux que j'étais là, pour leur prêcher. Beaucoup d'entre eux ne portaient aucun vêtement, rien du tout, les hommes comme les femmes. Alors, il avait une idole sous le bras et une petite étiquette au cou. J'ai dit, pourquoi ont-ils? À quoi servent ces étiquettes qu'ils ont au cou? Il a dit, ce sont des chrétiens. J'ai dit, des chrétiens? Avec une idole à la main? Il a dit, eh bien là, frère Branham, c'est un Songhai, a-t-il dit. je parle sa langue. Il a dit, nous allons avancer jusqu'à lui, et vous, parlez-lui, appelez-le comme bon vous semble, parlez-lui comme si vous vouliez lui poser des questions. Je le lui répéterai, et je vous dirai ce qu'il aura dit. Alors j'ai dit, bonjour Thomas. Je l'ai appelé Thomas, parce que je trouvais que c'était un nom qui lui allait très bien. Et j'ai dit, bon, bonjour Thomas. Il m'a regardé. Et j'ai dit, êtes-vous chrétien? Oui, il était chrétien. Et j'ai dit, oh, bien sûr, il ne me connaissait pas, il n'avait jamais, aucun d'eux ne nous avait encore vus. Alors j'ai dit, que faites-vous avec cette idole? Et lui, oh, son père portait cela. Vous voyez, c'était un dieu, voyez? Et j'ai dit, est-ce que votre père portait cela? J'ai dit, eh bien, cela ne justifie pas le fait que vous portiez cela. Vous êtes un chrétien, vous ne devriez pas porter cela. Il a dit, eh bien un jour, le lion pourchassait son père. Il a allumé un petit feu et a récité à cette idole la prière que le sorcier guérisseur lui avait dit de réciter. Et l'idole a chassé le lion. Les animaux tuent beaucoup de gens là-bas. Et j'ai dit, écoutez, ce n'est pas la prière que le sorcier guérisseur vous avait enseigné. C'est le feu qui avait fait fuir le lion. J'ai dit, les lions ont peur du feu. Et j'ai dit, Thomas, en tant que chrétien, vous ne devriez pas porter ça. Vous ne devriez rien avoir à faire avec ça. Et il a dit, oh, eh bien, a-t-il dit, si Amoya, c'est la force invisible, notre Dieu que nous ne voyons pas. Amoya signifie quelque chose là, une force comme le vent. Il a dit, si Amoya échoue, ceci n'échouera pas. Donc, il portait tous les deux. Si ça ne fonctionne pas chez l'un, ça fonctionnera chez l'autre. Eh bien, voilà la force du christianisme. Oui, oh là là. Mais plus tard, cet après-midi-là, que le Saint-Esprit est descendu à la réunion qui se tenait à l'hippodrome et a commencé à révéler les secrets du cœur, après que j'avais présenté les Écritures, pendant près d'une heure, alors que cela n'aurait en réalité pris qu'une quinzaine de minutes, parce qu'il y avait 15 interprètes différents qui devaient transmettre cela. Alors, si par exemple je disais « Jésus-Christ, le Fils de Dieu », celui-ci disait « Ah, bah, 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 bah », celui-là disait « Glou, 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 glou », cet autre, comme ça, tout cela signifiait « Jésus-Christ, le Fils de Dieu », c'était des interprètes. Et je devais noter la dernière chose que j'avais dite, sinon, je n'allais pas savoir où j'en étais, et puis je devais attendre qu'ils aient terminé. Puis, quand ça a été de nouveau mon tour, j'ai dit, « Maintenant, les missionnaires vous ont parlé d'un Jésus qui est venu pour vous sauver. » On pouvait les voir se regarder les uns les autres comme ça, vous savez, de différentes tribus, là, du haut jusqu'en bas. J'ai dit, c'est ce que les missionnaires vous ont dit, mais est-ce que ces missionnaires, quand ils vous ont lu ce livre, avez-vous vu là où il était un grand guérisseur et où il est dit qu'il vivrait dans les gens au cours des âges jusqu'à ce qu'il revienne? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous qui avez déjà accepté Christ comme votre Sauveur et qui portez ces étiquettes, aimeriez-vous voir Jésus revenir ici aujourd'hui, marcher parmi les gens et faire la même chose qu'il faisait quand il était ici sur la terre? Oh, eux tous, bien sûr, ils voulaient voir ça, voyez-vous, ils voulaient ça. J'ai dit, alors, s'il le fait, s'il nous utilise, nous qui sommes ici, pour faire la même chose qu'il faisait quand il était ici sur la terre, croiriez-vous sa parole? Oh, bien sûr. Voyez-vous, les mahométans qui étaient assis là, la première, la deuxième personne sur l'estrade était une femme mahométane. Le Saint-Esprit parlait. J'ai moi-même dit à la femme, j'ai dit, « Eh bien, vous savez que je ne vous connais pas, je ne peux même pas parler votre langue. » Et elle a admis cela. Elle avait un point rouge entre les deux yeux, ce qui signifiait qu'elle était une véritable mahométane. Alors j'ai dit, « Eh bien, là, pour ce qui est de vous guérir, je ne peux pas vous guérir. » Mais j'ai dit, « Avez-vous compris ce que j'ai dit cet après-midi, le message ?» Et elle a répondu à l'interprète mahométan qu'elle était indienne. C'est ce qu'elle était. Elle a dit, « Oui, elle l'a compris. Elle avait lu le Nouveau Testament. » Oh oui. Vous voyez, eux aussi, ils croient en Dieu. Ils sont la semence d'Abraham, eux aussi, voyez. Mais elle a dit qu'elle croyait en Dieu et qu'elle croyait que Mahomet était son prophète. Et nous croyons que Jésus était son fils, voyez. Donc elle a dit, oh, qu'elle croyait en Dieu. Et j'ai dit, alors, si vous connaissez l'Ancien Testament et que vous savez ce que Dieu était dans les hommes d'autrefois, dans les âges passés, alors Jésus, celui que nous appelons le Christ, était censé être le Dieu prophète. Ils l'ont tué. Vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait parce que vous dites qu'il est monté sur un cheval blanc et est parti. C'est ce que vous enseignent vos prêtres, qu'il n'a en fait jamais été tué et que des années plus tard, il est mort quelque part d'une mort naturelle. J'ai dit, vous croyez cela, mais ce Jésus, de la façon, selon le Nouveau Testament, il est mort et ressuscité et a renvoyé son esprit sur son Église. Là, vous les avez, voyez. C'est exactement à ce sujet que ce mahométan avait défié Billy Graham, voyez. La même chose, le même principe. J'ai dit, maintenant, si Mahomet ne vous a jamais fait de promesse, mais Jésus nous a fait une promesse, selon laquelle les œuvres qu'il a faites, nous les ferons aussi. Maintenant, vous vous souvenez qu'il a dit dans Jean 5, 19, « Je ne fais rien sans que le Père me le montre ». J'ai dit, maintenant, si Jésus vient et me montre quel est votre problème, ou pourquoi vous êtes ici, et que je vous dise ce qui vous est arrivé, quel était votre passé, et quel sera votre avenir, s'il peut vous dire quel est votre avenir, quel était votre passé, vous croirez certainement ce que sera votre avenir. Elle a dit, c'est vrai, voyez, par l'interprète. Et j'ai dit, très bien, puisse-t-il le faire. Et tous ces mahométans s'étaient levés, et ils observaient, vous savez. Et quand le Saint-Esprit a dit, « Votre mari est un homme petit de taille et costaud, il porte une moustache noire. Vous étiez chez le médecin il y a environ 3 jours. » J'ai dit, « Vous avez 2 enfants. Il vous a fait passer un examen gynécologique et vous a dit, « Vous avez un kyste à l'utérus. » Elle a baissé les yeux, a courbé la tête et a dit, « C'est la vérité. » Et j'ai dit, « Maintenant, si vous avez lu le Nouveau Testament, n'est-ce pas semblable à la foi où Jésus-Christ parlait à la femme au puits ?» C'est vrai. Et j'ai dit, « Eh bien, pourquoi êtes-vous venu vers moi, qui suis chrétien? Pourquoi n'êtes-vous pas allé vers votre prophète, Mahométan ?» Elle a dit, « Je pense que vous pouvez m'aider. » Et j'ai dit, « Je ne peux pas vous aider, mais si vous acceptez ce Jésus qui est ici maintenant, lui qui connaît votre vie et qui sait tout de vous, il vous aidera. » Elle a dit, « J'accepte Jésus comme mon sauveur. » C'était tout. C'était réglé. 10 000 Mahométans sont venus à Christ cet après-midi-là. Voyez, une 30aine d'années dans le champ missionnaire à distribuer de la littérature n'avait produit qu'un seul converti. Et là, en 5 minutes, 10 000 sont venus par l'Évangile qui a été manifesté. Dieu ne nous a jamais dit de construire des églises. Il ne nous a jamais dit de construire des écoles. Tout ça, c'est très bien. Les hôpitaux et tout. Dieu sait que nous en avons besoin. C'est son programme. Mais la commission de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Mais nous distribuons des tracts de la littérature d'Asbury, ce beau petit séminaire ici qui, que Dieu bénisse ces gens, cette petite université méthodiste là, à Wilmore, dans le Kentucky, c'est l'un des meilleurs endroits, je pense, que c'est l'un de ces petits endroits les plus spirituels au monde en ce moment. Ce sont des gens très bien. Et je revenais de... Cela m'échappe. C'était en Rhodésie, mais je ne connais pas le nom de la ville. Billy, t'en souviens-tu? Salisbury, c'est ça. New Salisbury, c'est lui qui me sert de mémoire. New Salisbury en Rhodésie. Nous revenions de la Rhodésie et j'ai vu un passeport américain quand nous montions dans l'avion. C'était un garçon et 3 filles. Et j'ai dit, je me suis approché d'eux et j'ai dit, bonjour. J'ai dit, je vois que vous avez un passeport américain. Il a dit, vous parlez anglais? J'ai dit, oui. Et j'ai dit, je suis américain. Il a dit, eh bien, c'est très bien. J'ai dit, « Vous voyagez ?» Il a dit, « Non, nous sommes des missionnaires. » J'ai dit, « Oh, c'est magnifique. » J'ai dit, « Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. » J'ai dit, « D'où venez-vous? De quelle église? Ou faites-vous partie d'une organisation? Ou êtes-vous indépendant ?» Il a dit, « Non, nous sommes méthodistes. Nous venons de Wilmore, dans le Kentucky. » J'ai dit, « C'est tout près de chez moi, là, de ma maison. » J'ai dit, il a dit, « Ne seriez-vous pas, par hasard, ce frère Branham, là ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, c'est bien cela. » Et ça, ça l'a refroidi sur le champ. Vous voyez, il n'a pas voulu en dire plus. Et j'ai remarqué l'attitude qu'il a prise. Il a jeté un coup d'œil à ses filles. Il se regardait comme ceci. J'ai dit, « Un instant, fiston, ce n'était qu'un gamin. » Et j'ai dit, « Et les filles aussi. » Et j'ai dit, « Je voudrais vous parler un instant de principe. » Étant chrétien, nous le sommes tous, et nous sommes ici pour la même grande cause. J'aimerais vous demander à tous les 3, à vous, les filles et à vous, jeunes hommes, pouvez-vous, au nom du Seigneur Jésus, vous avez dit que vous êtes ici depuis 2 ans, pouvez-vous nommer une seule âme que vous avez gagnée au Seigneur? Une seule âme? Ils ne le pouvaient pas. Pas une seule âme. J'ai dit, je ne veux pas vous blesser, pas du tout. J'ai dit, j'apprécie ce que vous faites, mais vous, les filles, vous devriez être à la maison, en train d'aider votre mère à faire la vaisselle. C'est tout à fait vrai. Vous n'avez rien à faire ici. C'est vrai. Et personne ne devrait aller dans les champs missionnaires tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit et qu'il prêche les démonstrations de puissance, parce que c'est la seule chose qui puisse toucher les gens. Quand on voit les soulèvements qu'on a maintenant et tout, c'est parce que le vrai évangile ne leur a pas été prêché. Cela leur a été apporté sous forme de parole. Eh bien, voyez-vous ce que c'est? C'est la continuité des rescapés de l'âge de Luther qui a donné au monde un libre accès à l'imprimerie. C'est vrai, ou le libre accès à la Bible. Bon, maintenant l'âge, ce grand âge. Eh bien, commençons maintenant, je crois que nous en sommes au... C'était la salutation, le verset 7, à travers, écrit à Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est toute une déclaration, n'est-ce pas? J'y reviendrai dans un instant, parce que cela s'applique plus loin ici, dans les Écritures. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Bon, maintenant, observez là la période qui s'annonce là, après le grand mouvement missionnaire qui a balayé les nations, cet amour fraternel qui leur faisait distribuer tout ce qu'ils avaient. Je n'ai rien contre cela, la distribution de la littérature et ainsi de suite dans les différents coins du monde. Là, l'Église dénominationnelle était de nouveau retournée aux œuvres selon les programmes pédagogiques. Voyez, elle y était retournée. Après la mise sur pied de la grande dénomination, Jésus a mis une porte ouverte. Après l'entrée en scène de l'âge wesleyen et que l'Église méthodiste a été établie sur la terre, qu'elle a pris racine, a grandi et est devenue la grande Église qu'elle est aujourd'hui. L'une des plus grandes parmi les églises protestantes. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a mis une porte ouverte devant l'église avant qu'elle entre dans l'âge de Laodicée. La raison pour laquelle je le dis ainsi, c'est pour que vous puissiez voir ce que j'entends par chevauchement. Vous voyez, cela vient de l'âge missionnaire de la porte. Mais voyez-vous, il leur avait dit qu'il avait la clé de David et tout. Mais ici, il dit qu'il l'a mise devant l'Église maintenant. Après cet âge missionnaire, et Whitfield, et tous les autres, Finney, Sankey, Moody, et ainsi de suite, Moody étant l'un des derniers, on en arrive maintenant au temps où il a mis une porte ouverte devant l'Église. Oh, c'est ici que vous devez faire attention maintenant. C'est juste entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, le chevauchement. Jésus est la porte. Maintenant, veuillez prendre avec moi Jean 10, 17. Appuyons cela maintenant, pour être certain que, afin que beaucoup d'entre vous croient. Sinon, quelqu'un dirait, eh bien, je n'ai jamais... C'est lui qui a dit ça. J'aimerais juste le lire. Jean, chapitre 10, verset 17. Jean 10, 17. Très bien. Nous lisons ces paroles. Excusez-moi, c'est Jean 10, 7, pas 17. Alors, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. » C'est le retour aux bénédictions. Comment entrons-nous en Christ? Qu'est-il? La bergerie. Je me suis souvent posé la question là-dessus. Quoi? Comment pourrait-il être une porte alors qu'il est un homme? Eh bien, un jour, là-bas, dans les pays orientaux, j'ai découvert, en observant le berger, que la nuit, il fait entrer toutes les brebis dans le corral. Il les fait passer par une porte. Une fois qu'il les a toutes fait entrer là-dedans, il les compte pour voir si elles sont toutes à l'intérieur. Puis, il se couche lui-même à la porte. Rien ne peut entrer pour aller vers les brebis, ou aucune brebis ne peut sortir sans passer par lui. Donc, Jésus est la porte, vous voyez, de la bergerie. J'étais à bord d'une petite Jeep britannique et j'ai dit à l'homme qui m'accompagnait, j'ai dit, ce sont les bergers traversaient la ville. Un coup de sifflet a retenti et tout le monde a freiné. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'était un berger qui traversait la ville avec ses brebis. Eh bien, là-bas, en Orient, ce n'est pas comme ici. Ils déposent toutes leurs marchandises à l'extérieur, à côté de la maison, sur les places du marché. Il y a des pommes, des poires et toutes sortes de fruits. Des raisins empilés magnifiquement, empilés sur un présentoir comme ceci, tout le long. Et chaque vendeur est là à essayer de vous attirer pour que vous lui achetiez quelques fruits et tout. Eh bien, ce berger s'est engagé dans la rue principale. J'ai dit, frère, il va y avoir toute une émeute. Je vais me lever pour voir ça. Et le frère qui était avec moi dit, vous serez surpris, frère Branham. Observez, tout s'est arrêté. Le berger a continué d'avancer, sans se soucier de quoi que ce soit. Et toutes les brebis le suivaient fidèlement. Elles le suivaient. S'il faisait un crochet comme ceci et tournait, toute la brebis qui était directement derrière lui faisait ce crochet. La suivante faisait pareil. L'autre le faisait aussi. Et ainsi de suite. Et toutes prenaient ce virage. Oh, c'est ainsi que nous suivons le berger. C'est vrai. Il est passé au bon milieu de cette rue pour aller chercher quelque chose à l'autre bout. Et ses brebis le suivaient comme un chien. Elles regardaient tout autour et voyaient toutes ces bonnes choses. Mais elles suivaient le berger. Oh, j'aime cela. Vous voyez, j'ai dit, oh frère, j'aimerais pouvoir parler cette langue. Je prêcherais à l'instant même. Voilà, oui, elle n'avait pas à tourner à droite ou à gauche, mais à suivre fidèlement le berger. C'est ce que l'Église a fait tout au long de son parcours, en restant derrière le berger, le Saint-Esprit qui nous conduit à la vie éternelle, sans se détourner parce qu'elle aurait vu une Église grandiose. Et celle-là a telle et telle, beaucoup de docteurs, et telle et telle comme ça. Mais elle est fidèlement restée derrière le berger. Partout où va le berger, les brebis suivent. Mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. C'est vrai, ce berger connaît quel bruit faire et tout pour amener ses brebis à bien se comporter. Et quand nous sommes sortis de la ville, j'ai vu une chose étonnante. Il y avait là un champ dans lequel se trouvaient quelques hommes qui s'occupaient des ânes, des vaches, des cochons, des brebis, des chèvres et toutes sortes d'animaux. J'ai dit, « Eh bien, qui sont ces gens-là ? » Il a dit, « Des bergers. » J'ai dit, « Un berger qui paie des ânes ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Eh bien, j'ai dit, « Je pensais qu'un berger ne s'occupait que des brebis. » Il a dit, « Non, le berger est quelqu'un qui garde, qui fait paître. » Et là-bas, dans votre pays, on les appelle des cow-boys ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, « Oh, je vois, un berger est un gardien. » Oui, il surveille les troupeaux. C'est vrai. Il a dit, ce qui est étonnant, c'est que quand vient la nuit, c'est là que vous, c'est frappant, comme vous êtes un ministre, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il a dit, quand vient la nuit, c'est vrai qu'il les fait paître tous, il les conduit ici et là, les aide et veille à ce qu'ils mangent de bonnes choses pendant la journée. Mais quand vient la nuit, tous les mulets, les ânes, les chameaux et tout ce qu'ils possèdent, il les laisse à l'extérieur dans le champ, mais il rassemble les brebis et les conduit au corral. Oh, et je dis, Seigneur, fais de moi une brebis, quoi que tu fasses. Voyez, car quand viendra la nuit, j'aimerais entrer dans la bergerie, entrer par la porte, venir par la porte. Ici, dans Jean 17, 7, où il a dit, je suis... Plutôt 10, 7. Il a dit, « Je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera le pâturage. » Maintenant, j'ai mis devant cette église, entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, une porte ouverte. Oh, saisissez-vous maintenant? Êtes-vous en train de bien faire tourner vos ménages? Écoutez maintenant, ça c'est bon. Je vous le dis, c'est du miel du rocher. Je ne fais qu'extraire les pépites et les polir. Je suis la porte de la bergerie. Quelle est donc cette porte qui a été mise? Faisons un retour en arrière dans notre pensée. À partir de ce grand âge missionnaire des méthodistes,
qui a balayé le pays avec le message de la sanctification. Luther, c'était par la justification. Wesley est venu avec le message de la sanctification. Et à la fin de l'âge méthodiste, à la fin, cela a pris racine et a commencé à devenir une grande organisation. Et quand une église, maintenant, écoutez, ça c'est fort, mais j'aimerais que quelqu'un me le montre par les récits historiques. Toute église que Dieu a jamais suscitée est entrée en scène comme à la Pentecôte, sans passer par une organisation. Et aussitôt qu'elle s'est organisée, elle est morte et ne s'est plus jamais relevée. Oh, le nombre de membres a bel et bien continué d'augmenter, mais elles n'ont plus jamais eu de réveil. Le réveil de Luther ne s'est jamais relevé. Le réveil méthodiste ne s'est jamais relevé non plus. Et le réveil pentecôtiste ne se relèvera jamais non plus. Non, monsieur, ils l'ont organisé. Et pourtant, Dieu a dit, dans les actes de l'Église, qu'il est cette chose, la doctrine des Nicolaïtes. Maintenant, souvenez-vous, nous ne parlons contre personne. De braves gens sont dispersés partout. Les brebis de Dieu sont dans tous ces endroits-là. C'est vrai, c'est exact. Les méthodistes, les baptistes, peu importe ce qu'ils sont, s'ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Mais les organisations les ont mis dans leur carcan et doivent apporter la lettre des méthodistes aux baptistes, puis aux campbellites, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils en aient totalement usé le papier à force de les trimballer d'un endroit à l'autre. Très bien. Et là, le Seigneur dit maintenant, à la fin de cet âge, je suis la porte de la bergerie. Eh bien, quelle porte a été ouverte au sujet de Jésus, juste entre ces deux âges? En 1906, presque au moment où l'âge méthodiste et Dwight Moody et les autres quittaient la scène, il y a eu une effusion. Les gens recevaient le Saint-Esprit, parlaient en langue, et toutes ces choses sont revenues dans l'Église. C'est tout à fait vrai. Vers 1906, ou quelque part par là. Très bien. Que s'est-il alors passé? Peu de temps après que cela s'est produit, ils ont organisé le vieux conseil général et l'ont mis sur pied. On l'appelle maintenant les assemblées de Dieu. Vous voyez, à partir de cette église qui avait connu un chevauchement. Et que s'est-il passé ensuite? Il a mis une porte ouverte. Une porte ouverte. Bon, lisons cela maintenant et saisissons cela mot à mot, tel qu'il le dit. Voyez, voici, voyons voir. Personne ne fermera, ni devant toi, une porte ouverte. C'est de l'autre côté. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte. Qu'est-ce que c'était? C'était la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Non pas une deuxième personne d'une trinité, mais Dieu lui-même fait chair et habitant parmi nous. Et la révélation, maintenant, si vous remarquez, dans un petit instant, lisons juste un peu plus loin. Fermé, à peu de force, et tu n'as pas renié mon nom. C'est la première fois qu'il est fait mention du nom, depuis que ce nom a été perdu, dans cet âge-ci. Luther est sorti avec un nom qu'il faisait vivre, mais il était mort. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Voici que le nom de Jésus revient ici, entre ces deux âges, entre les deux, la porte ouverte. Il s'agit là d'une révélation. Ce qu'il était, la divinité, les révélations de sa divinité. Maintenant, c'est ce qu'il a révélé au tout premier âge de l'Église. Maintenant, observez, quand Jean l'a vu, il était debout, les sept chandeliers d'or, il était debout, les mains tendues. Voici le premier chandelier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Il avait les mains tendues en forme de croix. Il a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Autrement dit, « Je serai suprême dans le premier, je serai suprême dans le dernier. » La lumière se lève à l'est et se couche à l'ouest. Cela a été un temps sombre et ténébreux, mais vers le soir, la lumière paraîtra. La même puissance de l'Évangile qui s'est levée ici, d'un côté, à l'est, a brillé. Et maintenant, elle est de l'autre côté, à l'ouest. L'alpha et l'oméga. Je suis A et je suis Z. Dans ses mains, vous saisissez ? Maintenant, qu'a-t-il fait dans le premier chapitre de l'Apocalypse? Il a révélé sa divinité suprême à la première église, Éphèse. Pas vrai? Eh bien, maintenant, remarquez, à chacune de ces églises qui sont passées par ici, il a révélé sa divinité seulement sous sa forme glorifiée. Mais à cette dernière église, il est devenu Z, un retour au début originel une fois de plus. Voyez, le premier est le dernier. Le premier âge est maintenant le dernier âge, car il a dit « Je suis le premier et le dernier ». Mais vous dites, eh bien, comment cela est-il arrivé? Qui a mis cela en lumière? C'était une révélation. Beaucoup d'entre vous ici l'ont reçu, parce que son nom, je vais dire quelque chose là, observez, son Église tout entière est bâtie sur les révélations divines de lui-même. Pas vrai? Si vous ne croyez pas ça, prenons Matthieu 16, 18. Vous verrez dans un petit instant que toute la révélation est bâtie sur lui-même. Son Église tout entière est bâtie sur les révélations de lui-même. Maintenant, commençons ici au... Commençons vers le verset 14. Puis ils répondirent, les uns disent, « Tu es Jean-Baptiste. » La question était celle-ci. Jésus a dit, sur le territoire de Césarée de Philippe, et demanda à ses disciples, « Qui dit-on, je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Verset 13, c'est 16, 13, là. Ils répondirent, « Maintenant, remarquez, c'est ici que Jésus en a parlé à l'Église pour la première fois, et là, dans l'Apocalypse, qui est le dernier. » Et il répondit, « Les uns disent, « Tu es Jean-Baptiste, et les autres, Élie, les autres, Jérémie, et les autres, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, à tout le groupe, en entier, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh là là! Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oh là là! Tu n'as jamais appris ceci dans un séminaire. Il n'y a aucun autre moyen pour toi de le savoir, Simon, fils de Jonas. Le seul moyen de le savoir, c'est par une révélation spirituelle qui t'a été donnée du ciel, afin que tu saches que je suis celui-là. Jésus a dit, « Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Je suis celui-là. Moi, je te dis, tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Qu'est-ce que c'est? Spirituel. Spirituel. La vérité spirituelle. La parole du Seigneur. Or, nous voyons que dans cette grande révélation que Dieu a donnée ici à l'Église en ces derniers jours, que Dieu a envoyé une révélation au sujet de lui-même, la porte ouverte entre les deux âges, ce n'était pas dans l'âge de Laodicée, ce n'était pas non plus dans cet autre âge, l'âge de Philadelphie, mais c'était entre les deux, le chevauchement, parce que je vais vous le prouver un peu plus loin et vous le saisirez, voyez-vous? Eh bien, nous allons rendre ça si évident que vous ne pourrez pas manquer de le voir, si vous voulez bien le voir, voyez, très bien. Donc, la révélation de lui-même, c'est ce sur quoi il a bâti son Église. Combien savent maintenant que c'est vrai? Il a bâti son Église sur la révélation de lui-même. Très bien. Alors, qu'a-t-il dit? Personne ne peut la fermer. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte, qu'est-ce que c'est? La révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit à sa première église, là, au début, dans cet âge, là? Il a dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je suis le Tout-Puissant. Il l'a dit à trois reprises. C'est en tant que divinité qu'il s'est présenté à cette première église. Ici, avant son entrée dans le dernier âge de l'église, il a dit, « Je mets devant toi une porte ouverte. Si vous voulez voir la révélation, la voici. C'est là-dessus qu'il bâtirait son église. Et le seul moyen pour lui de récupérer son église, c'est de la ramener à la révélation de ce qu'il est. » Vraiment, regardez, quand Abraham a fait une alliance, ou plutôt quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, ce jour-là, il a dit, « Comment ces choses se produiront-elles, puisque je suis vieux, et mon seul héritier, c'est ce serviteur de Damas que j'ai ici, Eliezer. » Il a dit, « Je suis vieux, et tu m'as promis un enfant. Comment le feras-tu? Comment cela se fera-t-il ? » Et souvenez-vous, il s'est endormi. Un profond sommeil est tombé sur lui, comme cela arrive à tous les hommes. La mort. Ensuite, il a vu passer devant lui une fournaise fumante. Tout pécheur mérite d'aller en enfer. Il avait tué un animal, une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon. Il n'avait point partagé la tourterelle et le pigeon. Et alors, cette petite lumière blanche est passée là-dessus et a fait des allers-retours entre ces morceaux d'animaux coupés, confirmant ainsi l'alliance avec Abraham. Bon, au Japon, si jamais il y a un Japonais ici, savez-vous comment on scelle une alliance au Japon? Ils se jettent du sel l'un sur l'autre. Ils prennent un petit bol de sel, s'assoient là et disent l'un à l'autre, « Pourriez-vous faire telle et telle chose ?»« Oui, je ferai telle et telle chose. » Puis, ils concluent une alliance, prennent du sel et le jettent l'un sur l'autre, parce que le sel est un agent de conservation, vous voyez? Très bien. Ils se jettent du sel l'un sur l'autre. C'est une alliance. Ici, en Amérique, pour conclure une alliance, nous disons, « Eh bien, pourriez-vous faire cela? Je ferai cela. » Et à un moment donné, on se serre la main. Marché conclu. C'est une alliance. Mais en Orient, la manière dont ils concluaient une alliance, c'est qu'ils écrivaient quelque chose. Ils rédigeaient un contrat et ils tuaient un animal au temps d'Abraham. Ils coupaient cet animal en deux et se plaçaient entre les deux morceaux. Ils rédigeaient le contrat et le déchiraient comme ceci. Chacun d'eux, l'un et l'autre, prenaient un morceau, puis ils faisaient un serment où ils déclaraient que leur corps soit comme cet animal mort s'ils ne respectaient pas ce contrat. Et là, le seul moyen pour que ce contrat soit un jour, vous ne pourriez jamais le reproduire. Une fois les deux bouts mis ensemble, ça devait concorder parfaitement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu montrait à Abraham au sujet de ce qu'il allait faire? Qu'il allait faire passer la postérité d'Abraham depuis Isaac jusqu'à Jésus, et il l'a amené au calvaire, et là, il l'a déchiré. Il a fait sortir de lui l'esprit et l'a éloigné du corps. Il a ressuscité le corps et l'a fait asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il a fait revenir le Saint-Esprit sur l'Église. Voilà l'alliance de Dieu. Il l'a déchirée. Nous avons l'esprit, il a le corps. Et quand cela sera de nouveau réuni, l'esprit qui était en nous s'unira à lui en tant qu'épouse. Amen. Aucune dénomination n'y sera greffée. Non, monsieur, c'est la naissance par le Saint-Esprit, pure et sans mélange. C'est tout. C'est ça, l'alliance. Maintenant, là, nous voyons qu'il a dit, « Je mets devant toi une porte ouverte. » Et peu m'importe le nombre de dénominations ou d'organisations faites de main d'hommes qui s'élèvent, même les portes de l'enfer ne peuvent pas la fermer. Il n'y a qu'un seul moyen de prévaloir contre cela, c'est de s'y joindre. C'est tout. Et comme on ne peut pas s'y joindre, il faut donc y naître. C'est vrai. Donc, personne ne pourra jamais arrêter le message de la divinité suprême, ni celui du baptême au nom de Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre cela. Vous dites, comment savez-vous que c'est vrai? C'est tout à fait conforme à la parole. Et personne d'autre ne peut rien dire à ce sujet. Tout à fait, c'est la parole. Il n'y a aucun passage où quelqu'un ait été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le grand saint Paul, l'ange d'Éphèse, a ordonné à toute personne qui n'avait pas été baptisée, peu importe la manière dont vous avez été baptisé, si votre baptême n'a pas été fait au nom de Jésus-Christ, il vous a ordonné de venir vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il a dit, si un ange du ciel venait enseigner quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Ainsi, vous pouvez voir ce que l'ange qui vient dans ces derniers jours, le genre de message qu'il aura quand il apparaîtra. Nous sommes peut-être en train de préparer le terrain pour lui. Mais je vous le dis, quand il viendra, il prêchera le baptême au nom de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas cela, venez demain soir. Je vous le prouverai par les Écritures. Il le fera certainement. La circoncision du cœur, les miracles divins, et la manifestation de la puissance, exactement comme ils en avaient au jour de la Pentecôte. La véritable bénédiction de Pentecôte originelle reviendra sur ce petit reste pour le faire monter là-haut. Ce contrat sera exactement comme il était au départ avant qu'on le déchire. Oh, je l'aime. Je suis si heureux. Si heureux. Je ne peux pas l'exprimer plus énergiquement. Je suis si heureux de dire « Je suis l'un d'entre eux ». Je suis si heureux. Je souhaiterais que tous mes frères soient comme ça. Je souhaiterais pouvoir amener mes frères et sœurs qui sont là-bas, mes précieux amis là-bas dans le monde, à voir cette grande chose. Je serai prêt ce soir. Dieu le sait. J'ai un petit garçon élevé, Joseph. De petites filles, Sarah et Rebecca, et une charmante épouse que je n'aime pas quitter. Mais si j'étais certain que mes frères partent, les gens que je connais dans ce monde pouvaient l'accepter et croire cela, puis être remplis du Saint-Esprit, je serais prêt à partir à l'instant même. C'est tout à fait vrai, voyez. Oh, si seulement je pouvais. Et vous ne pouvez pas, quand on leur parle gentiment, ils se disent qu'on essaye de leur faire avaler quelque chose. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous en tenir strictement à la parole et d'enfoncer le clou. C'est tout à fait vrai. Tenez-vous-en strictement à elle. Oh, comme je l'aime. Une révélation de lui-même, de sa divinité suprême. Pourquoi l'a-t-il fait? Je n'arrive pas à laisser cela de côté, pour une raison ou une autre. Il l'a révélé dans l'église d'Éphèse, pas vrai? Et ça, c'est au moment où la lumière est apparue et a brillé pour la première fois. La lumière chrétienne, pas vrai? L'âge du Saint-Esprit a commencé ici même, à Éphèse. Et le prophète a dit, il viendrait un jour qui ne serait ni nuit ni jour, mais vers le soir, la lumière paraîtra de nouveau. Vous le voyez? Voyez ce jour sombre, partout ici. Tout ce qui est sombre ici, les organisations et tout, mais ici, dans les derniers jours, là, tout au bout, il mettrait cette porte ouverte. Jésus a dit, « Je suis cette porte ». L'avez-vous déjà entendu dire, « Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la lumière ». Voyez, l'avez-vous déjà entendu dire, « Étroite est la porte et resserrez le chemin ». Avez-vous déjà remarqué comment ce mot « straight » il s'agit du mot anglais « straight » qui signifie « détroit » et dont l'homonyme « straight » signifie « étroit ». « Étroit » est appelé « S-T-R-A-I-T ». « Détroit » de l'eau. Un « straight » détroit signifie un cours d'eau appelé de cette façon. « S-T-R-A-I-G-H-T » étroit. Voyez ? « Détroit ». L'eau est le chemin et cette eau est la porte et resserré est le chemin. L'eau, qu'est-ce que c'est? Le portail, la porte, vous voyez, pour ouvrir. Le chemin, c'est au nom du Seigneur Jésus par l'eau. Étroite est la porte, resserrez le chemin, que Jésus, l'eau est la porte, au nom du Seigneur Jésus, l'entrée. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et alors que vous regardez au calvaire, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Certains disent, c'était seulement pour les apôtres. Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est tout. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour tout le monde, si vous venez exactement comme l'ordonnance l'indique. C'est vrai. Ne dites pas, « Eh bien, je vais me faufiler par ici. » Une fois, quelqu'un s'est faufilé, vous savez, est entré par un autre moyen. Le saviez-vous? Avez-vous déjà lu la parabole à ce sujet? Il y avait un homme qui s'était faufilé et était entré par un autre moyen. Bon, en Orient, quand on allait au souper des noces, nous en parlerons demain matin. Ce souper des noces, comment cet homme y était entré? Nous essayerons d'en parler demain matin. J'allais en parler maintenant, mais je vais laisser tomber. Dans la matinée, la manière dont cet homme était entré là-bas venant du souper des noces, ou pour le souper des noces. Très bien. Étroite est la porte et resserrez le chemin. L'eau est la porte, l'entrée qui mène au Seigneur Dieu. J'ai mis une porte ouverte. J'ai les clés. Je suis le seul qui puisse l'ouvrir. Je suis le seul qui puisse la révéler. J'ai les clés. Pas vrai? Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Nul ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ. Pas par une église, une organisation, un évêque, un pape. Uniquement par Jésus-Christ. Il a la clé. Il est le seul qui puisse. Les clés de quoi? David, le millénium à venir, où il sera assis sur le trône de David. J'ai les clés de David. J'ouvrirai cette porte et personne ne pourra la fermer. Personne d'autre que moi ne peut l'ouvrir et personne ne peut la fermer pour moi. comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est le Christ tant qu'il ne s'est pas révélé à lui? Vous voyez, il se révèle, il a la clé. Il peut l'ouvrir ou ne pas l'ouvrir. Vous voyez, j'ai la clé de la porte. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière. Oh, je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le Père. Je suis le Fils. Je suis le Saint-Esprit. Je suis, pas j'étais ou je serai. Je suis celui qui suit. Ça dit tout. Je suis. Pas « j'étais » ou « je serai ». « Je suis », cela signifie la présence vivante pour l'éternité. Vous voyez, « je suis ». J'ai toujours été, je serai toujours, je suis maintenant comme j'ai toujours été et comme je serai toujours. Vous voyez, il est tout simplement « je suis ». J'ai les clés du royaume, celles de David. Personne ne peut la fermer. Très bien, le verset 7 le prouve, qu'il a les clés de David. Personne ne peut la fermer. Maintenant, voyons rapidement quelle est la chose suivante. « Car tu as peu de force. » Oh, il a dit à ce petit groupe là-bas, « Tu n'as que peu de force maintenant. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme un homme qui est mort et qui en quelque sorte se secoue, reprend vie et se ranime un peu. Il reprend vie. Tu es sorti de ces vieux credos morts et tout. Tu commences à reprendre un peu de vie, à te secouer, à te réveiller en quelque sorte. Tu as peu de force, mais j'ai mis devant toi une porte. Dès qu'ils sont sortis du luthéranisme et de la papauté et de tous ces autres ismes et du méthodisme et tout, il a dit, j'ai mis devant toi une porte. Maintenant, tu as peu de force. Que vas-tu faire à ce sujet? Elle est mise devant toi. Tu peux y entrer ou en sortir. À toi de voir. La porte est mise devant toi. Tu as peu de force. Tu viens juste de prendre vie. Tu ne fais que commencer. Ainsi en était-il de l'Église primitive. Remarquez qu'à la fin de l'âge de Laodicée, ils sont de nouveau retournés aux œuvres. Maintenant, si vous remarquez ici, c'est pour vous montrer que cette Église se trouve entre ces deux-là. Si vous prenez l'âge de Laodicée ou l'âge de l'Église de Laodicée, il y est dit, « Je connais tes œuvres », juste à la fin de l'âge de Laodicée. Qu'est-ce que c'était? Tes œuvres. Et là où est le trône de Satan. Le trône de Satan, qu'est-ce que c'était? Voyez, ils sont de nouveau retournés dans la dénomination. Vous, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes unitaires et l'Église de Dieu, oh, ne voyez-vous pas, mes frères, ce que vous avez fait? Vous êtes retournés à ce que Dieu est, et cela a détruit la fraternité. Regardez les assemblées de Dieu. Certains des plus braves gens au monde font partie des assemblées de Dieu. Regardez l'Église pentecôtiste unie, les gens les plus braves que vous ayez rencontrés dans votre vie. Regardez dans l'Église de Dieu, et à cause de ces organisations, ils se disputent et se plaignent, et se disputent, et se traitent mutuellement de perchoirs à buse, de nids de rats. Mais c'est une honte. Une chose que Dieu est, c'est de semer la discorde parmi les frères. C'est vrai, et ce sont les organisations qui le font, qui sèment la discorde parmi les frères. Nous devrions nous tenir dans la brèche et dire, nous sommes frères. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un seul corps, un dans l'espérance et la doctrine de la Bible, un dans l'amour. J'aime ce vieux cantique, en avant, soldats chrétiens. Oui, monsieur. À la fin de l'Odyssée, ils sont de nouveau retournés aux œuvres, où les dénominations pentecôtistes sont retournées à la dénomination. Prenons le verset 15. J'ai noté ici, Apocalypse 3, verset 15. Et voyons si ce n'est pas vrai, là. Apocalypse 3 est où? Voyons voir si j'ai bien écrit ça. Apocalypse, oh non, non, je me suis trompé. Verset 15, c'est le verset 15 de ce même chapitre, qui montre la même chose ici en bas. Oui, ah oui. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres. Cela montre qu'ils sont de nouveau retournés à leurs premières œuvres. Ils sont retournés avec leur force. Ils sont retournés aux dénominations pentecôtistes. Le verset 15 du même chapitre. Très bien. Entre les deux âges, ils ont reçu un peu de force. Entre les deux âges de la doctrine dénominationnelle des Nicolaïtes. Ainsi donc, ici, les luthériens sont retournés dans le nicolaïsme, les grands archevêques et tout. Puis est arrivé Wesley. Ils ont installé l'archevêque de Canterbury et tous ces autres grands, partout dans les églises et ainsi de suite, dans cet âge-là. Et ici, dans celui des pentecôtistes, ils sont retournés de nouveau à la même chose, toute leur grande dénomination, la doctrine des Nicolaïtes. Mais entre ces deux âges, il a ouvert la porte et a donné un peu de force à l'Église pour qu'elle reprenne suffisamment vie pour se secouer la tête, regarder au loin pour voir où elle en était et recevoir la révélation. Qu'elle se retourne pour voir quelque chose. Elle était assommée, vous savez. Bien vite, elle va se mettre à secouer la tête, à regarder autour d'elle et à secouer la tête. Au fait, j'ai rêvé de ça la nuit dernière. Charlie, je croyais avoir tiré sur un écureuil. Il est tombé de la branche. Et j'ai vu qu'il y avait là une vieille femme. Oh, elle était très en colère contre moi. Elle cherchait à m'attraper. Cet écureuil avait une petite ficelle blanche autour du cou. Allongé là, ce petit animal a secoué la tête deux ou trois fois et m'a regardé. Il a détalé à toute vitesse et retourné directement dans les bois. Vous savez, cette vieille femme représentait peut-être l'Église. Peut-être, n'est-ce pas? Elle a essayé de me piétiner. Je lui ai échappé d'une façon ou d'une autre. Mais oh, juste un peu de lumière. Mais assez pour savoir que... Je sais que j'ai pris la route et qu'elle allait me couper la route un peu plus loin. J'ai très vite fait demi-tour avec ma Ford. Il y avait une remorque à l'arrière. J'ai fait un tour complet et je suis parti dans l'autre direction pour éviter qu'elle m'attrape. Je lui ai échappé de justesse. Bon, il te reste un peu de force. Alors, il te faut utiliser cette force pour vraiment faire volte-face vis-à-vis de ces deux dénominations. L'avez-vous remarqué? Gardez sa parole. Observez le verset suivant, ici maintenant. Tu as peu de force et tu as gardé ma parole. Gardez ma parole. C'est comme ça qu'ils ont obtenu leur force. C'est comme ça qu'ils ont eu leur révélation. Celui qui s'est emparé de la Bible, quand Luther l'a imprimée, et elle s'est répandue à travers l'âge de Wesley et tout, ils s'en sont emparés et ont gardé la parole. Ils ont vu la révélation de Jésus-Christ, que Dieu s'est fait chair parmi nous, et le baptême d'eau au nom de Jésus. Alors, ils ont embrassé directement cela. Voilà. C'est là qu'ils ont donc reçu son nom. Voyez? Eh bien, c'est clair comme, plus clair que de lire le journal. Voyez? Juste, et vous ne pouvez pas le nier, parce que c'est juste ici. Ça figure ici même dans la Bible. C'est ça, ici, juste ici. Et nous avons, c'est l'histoire. C'est exactement là que l'Église pentecôtiste a commencé et a eu son nom. Vers 1908, 1910, 1912, quelque part par là. Elle a commencé à rétrograder. Bon, très bien. Et tu n'as pas renié le nom. N'a pas renié mon nom. Eh bien, j'aime ça. Là, il a les clés de David. Il est capable de garder sa parole et de vous faire entrer dans le royaume. Son nom avait été révélé. Ils sont sortis de l'Église qui avait un nom, mais ils étaient morts. Et maintenant, ils sont entrés dans l'Église qui a le nom, c'est-à-dire qui a la vie. Voyez, sortez d'entre les morts. Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'a même pas de sens. Vous voyez, cela avait été donné là-bas afin d'être révélé. Son livre tout entier est écrit sur la base de la révélation. Voilà, c'est ça. Il se révèle. Maintenant, il a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Maintenant, lequel de ces noms allez-vous utiliser? Or, la plupart des trinitaires baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas conforme aux Écritures. Demandez à n'importe qui. Voyez, si ce n'est pas, c'est au nom, au singulier, pas nom, le nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez? Très bien. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de mort. Il n'y a pas de nom là. Mais par ces titres morts, par la vie de Christ, ça se révèle. Et Pierre avait dû avoir il était là, les clés du royaume des cieux à la main. Or, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Elles étaient accrochées sur son côté, les clés du royaume. Autrement dit, la révélation, parce que Jésus le lui avait dit. Oh frère, ne voyez-vous pas cela? C'est Pierre qui avait reçu cette bénédiction, la révélation de la vérité. Et alors qu'il se tenait là, il a entendu Jésus dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pierre s'est retourné et a dit, « Seigneur, là, j'ai vraiment reçu les clés. J'ai reçu la révélation de ce que cela signifie, parce que je sais que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais je sais quel est ce nom. Alors, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. » C'est vrai. Eh bien, c'est comme quand vous lisez une histoire d'amour. Et vous, ça, c'est le dernier livre de Matthieu, la dernière partie de Matthieu. Si vous lisiez une histoire d'amour, certains d'entre vous, les dames, je sais que vous ne le faites pas. Vous ne feriez certainement pas ça. Non, non. Voyez? Mais si vous le faisiez quand vous étiez une pécheresse, vous voyez, Vous achetiez ces romans dans la... Vous savez, quand vous étiez une jeune fille et que vous lisiez une histoire qui disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants hein? ». Qui sont Jean et Marie? Eh bien là, il n'y a qu'un seul moyen pour vous de savoir qui sont Jean et Marie. C'est de revenir au début du livre et de le lire. Pas vrai? Eh bien, dans le dernier livre de Matthieu, le dernier verset où Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je leur ai prescrit. » Maintenant, si Père n'est pas un nom, et que Fils n'est pas un nom, et que le Saint-Esprit n'est pas un nom, mieux vaut retourner au début du livre. Voyez. Alors, quand on revient au début du livre, le premier chapitre de Matthieu, on trouve ceci. J'aimerais juste illustrer cela ici par un petit exemple au cas où il y aurait quelqu'un ici qui n'a jamais vu cela. Regardez bien ceci. Ceci, c'est le Père. Ceci, c'est le Fils. Et ceci, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, regarde attentivement. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, qui est celui-ci? Père, écoutez dans l'auditoire. Père, Saint-Esprit, Fils. Maintenant, qui est celui-ci? Le Saint-Esprit. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Le Fils. Très bien. Eh bien, c'était le Père de qui? Jésus-Christ. Pas vrai? Maintenant, Matthieu, chapitre 1, verset 28. Lisons cela. Nous allons prendre cette histoire d'amour et voir ce qu'elle dit. Nous allons voir qui est cet homme dont il est question, quand il dit « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Très bien. Bon, Matthieu, chapitre 1, commence par les généalogies. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, un fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac eut Jacob, et ça continue comme ça, jusqu'au verset 18. Bon, voyez-vous, vous continuez jusqu'ici au verset 17, et il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations, la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Est-ce que vous lisez à ma suite? Écoutez attentivement. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. Est-ce bien ce qu'on y lit? Se trouva enceinte par quoi? Eh bien, je croyais avoir entendu quelqu'un dire que ceci était son Père. Or, si le Saint-Esprit est une personne et que le Père est une autre personne, alors il avait deux pères. Qu'est-ce qu'on obtient donc? Un enfant illégitime. Oh, dites-vous, c'est un lapsus, c'est juste une erreur de frappe là. Très bien. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... » Que toute parole soit établie sur la déposition de deux ou de trois témoins. Voyez? Ah oui. Le Saint-Esprit était son Père. Eh bien, il a dit que c'est Dieu qui était son Père. Si donc il s'agit de deux personnes différentes, lequel était son Père? Voyez donc où ça vous mène. Vous vous retrouvez dans une histoire sans queue ni tête. Voyez? Là, vous êtes bien obligé d'admettre que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors, là, on en a deux au lieu de trois. Très bien. Très bien. Verset 21. L'enfant qu'elle a conçu, qui avait mis cet enfant qu'elle avait conçu, venait de qui? Le Saint-Esprit. Très bien. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Quel était son nom? Maintenant, qui sont Jean et Marie, qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quand Jésus est né sur la terre, il était Christ, le Seigneur. lors de sa circoncision, 8 jours plus tard, sa mère lui a donné le nom et son père lui a donné le nom de Jésus. À ce moment-là, il était Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Il était Seigneur. Quand il est né, il était Christ, le Seigneur. Et puis, quand il a reçu le nom de Jésus, cela fait de lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui avait été révélé à Pierre. Il savait qui étaient Jean et Marie quand Jésus disait « Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, cela pouvait être révélé parce que Jésus savait que Pierre avait le don des révélations. Il le savait parce que cela lui avait déjà été révélé d'en haut par l'Esprit. Et quand Dieu voit qu'un homme peut recevoir des révélations d'en haut, il peut avoir confiance en cet homme et faire quelque chose avec lui. Quand cela lui est révélé, parce qu'il a dit, « Nul homme ne peut révéler ceci si ce n'est son Père. » Dieu est le seul qui puisse révéler cela. Il savait que Pierre était en contact avec l'Esprit. Alors Pierre connaissait la révélation. Il est donc allé là et a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Or, quelques jours avant cela, Jésus a dit à Pierre, au même moment où il lui a dit qui était la révélation, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, je dis que tu es Pierre, je te donnerai les clés. » Oh, les clés du royaume! Je te donnerai les clés. Tout ce que tu liras sur la terre, je lirai cela dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je délierai cela dans les cieux. Alors, le jour de la Pentecôte, lors de l'inauguration de l'Église, 10 jours après que Jésus avait dit, « Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Pierre, par révélation spirituelle, savait que le nom Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas. En fait, cela n'avait jamais été enseigné avant l'âge catholique. Et toute personne qui a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit a en fait été baptisée dans la foi catholique. C'est vrai. Et non du baptême chrétien. Il y avait le reste. Bon, le jour de la Pentecôte, ils avaient tous été remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue et se comportaient comme s'ils étaient ivres. Et ils l'étaient. Ils étaient ivres de vin nouveau. Le vin nouveau venu du ciel, de Canaan, d'en haut. Et pendant que tous hurlaient, poussaient les cris, et se comportaient comme s'ils étaient ivres et tout, Pierre se levait du milieu d'eux et leur a dit ceci, ils n'étaient pas ivres, mais ils étaient, c'était là ce que le prophète avait dit qui arriverait, ils répandraient son esprit. Et là, ils ont dit, homme, frère, que pouvons-nous faire? Homme, frère, que pouvons-nous faire? Voilà la question. Comment pouvons-nous l'obtenir? Qui a les clés? Viens ici, Simon. Tu as les clés. Retire-les de ton côté. Que vas-tu dire? Maintenant, souviens-toi. Jésus-Christ a dit, si tu lis cela sur la terre, je lirai cela dans les cieux. Si tu délis cela sur la terre, je délirai cela dans les cieux. Et s'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Alors vous, les prêtres catholiques, montrez-moi votre pardon des péchés. Un prêtre catholique m'a dit une fois, Jésus n'a-t-il pas dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » J'ai dit, « Il l'a dit. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. » Oui. C'est-à-dire, ceux à qui vous pardonnez, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous ne pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. J'ai dit, « C'est bien ce que ça dit. » Il a dit, « Alors, Christ n'a-t-il pas donné à son Église, et nous sommes son Église, le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre ?» Certainement qu'il l'a fait. J'ai dit, « Eh bien, si vous les pardonnez de la même manière qu'il les pardonnait, je serai d'accord avec vous. » Oui. J'ai dit, « Comment leur pardonnait-il? Leur ont-ils dit, « Allez faire des neuvaines ou quelque chose, ou ce que vous faites ?» Non, monsieur. Pierre a dit, « Repentez-vous. » Amen. Voilà la clé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La clé a fait clic sur la terre et elle a fait clic dans le ciel. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, quand Paul a rencontré certaines personnes qui avaient déjà été baptisées par le même homme qui avait baptisé Jésus, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « De quel ?» Si vous prenez le mot grec, ça dit, « Comment avez-vous été baptisés ?» Ils ont dit, « Du baptême de Jean. » Il a dit, « Cela ne marchera plus. Le ciel est déjà fermé. Vous devez venir vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. » Après avoir entendu cela, ils se sont donc fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand ils l'ont fait, Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont parlé en langue et ont prophétisé. Oh, frère, ça, c'est le retour au commencement. C'est tout à fait vrai. C'est la porte ouverte qui avait été placée juste ici. C'est géographiquement vrai. Les lumières du soir et toutes les écritures de la Bible mènent directement à cela. Nous pourrions rester ici pendant des heures. Il me reste 15 minutes et j'ai environ 35 remarques à faire ici. Et si on n'y arrive pas, on les verra demain matin, si on ne le fait pas ce soir. Très bien. Bon, très bien. Personne ne l'a fermé, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole. Très bien. Et tu n'as pas renié mon nom. Voilà, c'est ça. N'a pas renié mon nom. Le nom avait été révélé. Il s'était éloigné de la vieille dénomination morte de Sardes, était entré dans l'Église vivante. Prenons maintenant le verset 9. Là, nous allons faire très attention maintenant. Nous abordons quelque chose qui est très dangereux. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Juste ici, il y a assez de matière pour y passer toute la nuit. Regardez bien, qui sont-ils maintenant? Ceux à qui il a parlé, qui ont découvert son nom après tout ce temps passé là-bas, ici, en bas, qui sont entrés par la porte ouverte. Jésus-Christ, qui ont reçu la parole de vie, ont été remplis du Saint-Esprit. Et là, il leur dit, il y en a parmi vous qui sont de la synagogue de Satan. Maintenant, mon frère, si vous voulez bien retourner à Pergame, Apocalypse 2, 13, juste un instant, là, je vais vous montrer ce qu'il en est vraiment, la dénomination. Je connais tes œuvres, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Voilà, cette Laodicée, ou je veux dire, cet tas de l'église des Nicolaïques, où ils ont formé une dénomination. Regardez bien, c'est pour montrer qu'ils étaient une église, une synagogue, une église dénominationnelle. Oh, frère, la synagogue de Satan, donc les œuvres des dénominations sont du diable. Pas les chrétiens, là. Souvenez-vous, ils sont chrétiens, mais la dénomination elle-même. Très bien. Maintenant, avez-vous remarqué, il a dit, il y en a parmi vous qui se disent juifs, mais vous les avez trouvés menteurs. Là, souvenez-vous, le grand ange. Maintenant, à qui est-ce qu'il s'adresse? À cette dernière église, à cette porte ouverte entre les deux églises. Eh bien, qui était l'enseignant au premier âge de l'Église? Paul. Maintenant, prenons Romains 2, 29, et voyons ce qu'est un juif, afin que vous sachiez avec certitude qu'il ne s'agit pas de mon opinion personnelle là-dessus. Romains, chapitre 2, verset 29 de Romains. Très bien, nous y sommes. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est du cœur, et selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce qu'un juif? Un chrétien rempli de l'esprit, du Saint-Esprit. Je sais que tu es ici, après cet âge de la sanctification où ils prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui l'a dit, pas moi. Ils prétendaient avoir reçu le Saint-Esprit sans que les miracles les accompagnent. Mais il a dit, ce sont des menteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne peut pas le faire mentir. Oh frère, cela vous aveugle complètement. Voyez, oh là là, je vais... Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui prétendent être des chrétiens remplis de l'esprit. Ils le prétendent. La synagogue, l'organisation, je te donne de ceux qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit et qui ont tous formé des organisations là-bas. Ils n'ont même pas encore reçu la révélation. Voyez, très bien. Je dirais, ceux qui se disent juifs, qu'ils sont chrétiens et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Juste ceci pourrait me faire entrer dans mon message de demain matin. Là, il s'agit précisément de la Vierge endormie. Pouvez-vous voir cela? C'était à quel moment? Au temps de la fin. Oh, quand ils sont sortis. Voici les... Voyez, ils ont été justifiés par la foi, sanctifiés, justifiés par le message de Luther, sanctifiés ici, mais ils ont manqué la porte ouverte. Vous le voyez? Justifié par la foi, par Luther, sanctifié dans l'âge de Wesley. Bon nombre de ces précieux nazaréens, pèlerins de la sainteté, méthodistes wesleyens, et ainsi de suite, mènent tous une vie sanctifiée, pure et droite. Ils croient avoir le Saint-Esprit. Et s'ils entendent quelqu'un parler en langue, ou quelque chose de ce genre, ils vont rire de lui, se moquer de lui, et dire, « C'est du diable. Frère, vous avez scellé votre sort comme vous l'avez fait. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, ce qui est impardonnable. » Eh bien, vous dites, « Nous appartenons à la première église. Le nombre d'églises auxquelles vous appartenez m'importe peu. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. N'en retranchez rien, n'y ajoutez rien. » C'est vrai, des synagogues de Satan. J'espère que je ne vous blesse pas. Je n'aime vraiment pas parler comme ça. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à le faire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Vous savez que je n'aime pas faire ça. Je me sens vraiment mal quand je le dis. Et pourtant, il faut que je le dise. Il y a en moi quelque chose qui me fait le dire. Je n'ai jamais aimé m'en prendre aux femmes. Je me sens si une femme pleure, ça me fait très mal. Je n'aime vraiment pas m'en prendre aux femmes. Mais il y a en moi quelque chose qui me pousse à le faire. Voyez, une femme immorale. Oh là là, je ne peux vraiment pas supporter cela. En fait, il y a en moi quelque chose qui me pousse à le faire. Le Saint-Esprit. Et je regarde ici dans la parole. Je me dis, Seigneur, si j'ai tort, montre-le-moi. Ne me laisse pas le faire juste pour le plaisir de le faire. J'aime les gens, et tu le sais. Ne me laisse pas blesser qui que ce soit, ô Dieu. Tu sais que je ne le ferai pas. Mais le Saint-Esprit se lève et dit, tiens-toi à cette parole. Ne bouge pas de là. Tiens-toi strictement à cette parole. Et je dis, oui, Seigneur, si c'est, tu es mon meilleur ami. Tu es le seul que je... Tu es mon véritable ami qui va... C'est toi seul qui m'aidera quand cette vie arrivera à son terme. Alors je vais donc me tenir à tes côtés, Seigneur. Me voici. Je n'ai pas l'intention de vous blesser. S'il vous plaît, comprenez-moi bien quand je taille en pièces les organisations et tout. Bien avant de savoir quoi que ce soit à ce sujet, toute ma vie, j'ai taillé cela en pièces. Je n'y ai jamais cru. C'est pour ça que je ne voulais pas m'y associer. Et très bien, Dieu merci de m'avoir tenu loin de cela. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent remplis de l'esprit et ne le sont pas, mais mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ne vous souvenez-vous pas de la Vierge endormie quand elle s'est élevée? Maintenant souvenez-vous, comment l'a-t-on appelée? Il y en a 10 qui sont sortis à la rencontre de l'époux. Pas vrai? 5 étaient sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Combien savent ce que l'huile signifie dans la Bible? L'esprit. Là, personne ne pouvait dire, tu n'es pas sanctifié, je ne suis pas. Elles étaient toutes sanctifiées, chacune d'elles, toutes sanctifiées. Mais 5 étaient assez sages pour avoir la sagesse de la révélation, pour saisir cette porte, voyez, pour être remplies de l'esprit. Elles avaient de l'huile dans leur lampe, et les autres n'avaient pas d'huile. Et quand elles se sont réveillées, eh bien, voilà que les autres se sont approchés d'elles, et ont dit, « Oh, donne-moi de ton Saint-Esprit, l'huile, donne-moi !» Elle a dit, « Oui, désolé ma sœur, j'en ai juste assez pour moi-même. » Chose certaine, je n'en ai pas de trop. Alors, et pendant que, il a dit, allez en prière, et pendant qu'elles étaient parties en chercher, l'époux est venu, et elles sont parties au souper des noces, et elles ont été laissées à l'extérieur. C'est pour cela qu'elles passeront par la période de la tribulation de... Regardez juste un peu plus bas, quelques versets plus bas, vous verrez qu'elles sont passées par la période de la tribulation. Voyez? Maintenant, les endormis, nous allons reprendre ça demain matin. Oui, je crois que ce serait préférable que nous attendions pour cela, parce que nous arrivons à ceci maintenant, et il est à peu près temps de terminer. Très bien. Maintenant, voyons un peu. Voici, ils les ont trouvés menteurs, car ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Juste une petite chose ici, s'il vous plaît, pendant que nous sommes tous ensemble. Judas Iscariote, comme je l'ai dit hier soir, était le fils de la perdition. La Bible a dit, il est né le fils de la perdition. Alors qu'est-il? Jésus-Christ est né le fils de Dieu. Donc, Dieu vivait en Christ, n'est-ce pas? Le Satan vivait en Judas. S'il était le fils de Dieu, né le fils de Dieu, le fils de Dieu incarné, Alors Sato est né le fils de la perdition. Il était incarné, le fils de la perdition, Satan, le diable. Or, si vous remarquez, il s'est joint à Jésus et est devenu l'un d'eux, voyez. Alors, la raison pour laquelle il a fait ça, c'était pour amener cette tromperie afin de pouvoir entrer dans l'Église en ce jour-ci. Et là, Jésus a dit, ces synagogues sont de Satan. Ouh là là! Est-ce que ça vous frappe? Elles sont des synagogues de Satan. Voilà Judas qui prétend être un chrétien. Quelle était la chose la plus importante pour Judas? C'était l'argent. Le plus grand attrait de beaucoup de ces choses que nous avons aujourd'hui, c'est l'argent. Regardez les assemblées de Dieu. Ils construisent un bâtiment de 6 millions de dollars par ici. Et ils enseignent que le Seigneur vient très bientôt. Oh, les bombes sont dans les silos pour nous faire sauter. Ils construisent un bâtiment de 6 millions de dollars. Oh là là! Eh bien, ils sont riches et n'ont besoin de... Bon, nous verrons cela demain soir si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez ici. Oh, regardez combien les églises sont grandes, ces grandes organisations. Ils mettent leur argent en commun et, oh, miséricorde, elles deviennent tout simplement multimilliardaires et offrent même des services financiers, ont des associations de crédit parmi elles et tout. Ces églises accordent des prêts financiers et tout. Frère, tout ça ne me semble pas apostolique. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, donnez-moi cela et prenez tout votre argent. » C'est vrai. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait, la révélation de cela. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Très bien. Maintenant, nous voyons ici qu'ils étaient des synagogues de Satan. Bon, comment est-ce possible? Maintenant, Judas, quand il est venu, maintenant, regardez. Juste au moment où Jésus est venu sur la scène. Judas est venu sur la scène. Avez-vous remarqué ça? Et juste au moment où Jésus a quitté la scène, Judas a quitté la scène. Juste au moment où le Saint-Esprit est de nouveau revenu sur la scène, Judas est revenu sur la scène. L'Esprit Antichrist, afin d'agir aussi dans les fils de la rébellion, il ne se soucie pas de la Bible, mais il se soucie de la dénomination, voyez. Et ils se sont donné une synagogue. Et ici, Jésus a dit, c'est la synagogue de Satan, où s'est établie là, dans cet âge-ci. Comment a-t-elle commencé ici au début? Par une organisation. C'est la même chose qu'elle a faite juste ici. La synagogue de Satan. Vous saisissez cela? La synagogue de Satan, a-t-il dit, ils se disent remplis de l'esprit. Bon, comment pouvait-il dire cela? Judas, quand il était ici sur la terre, il avait rencontré Jésus, avait confessé qu'il croyait en Jésus, était devenu le trésorier. C'est lui qui gardait tout l'argent, pas vrai? Vous le savez tous. Alors, s'il croyait en Jésus-Christ, il avait donc, faussement, accepté la justification, pas vrai? C'est dans Romains 5, 1. Étant donc justifié par la foi. C'est vrai, très bien. Bon, et autre chose aussi, dans Jean 17, 17, Jésus les a sanctifiés par la vérité. Il a dit, « Ta parole est la vérité. » Et il était la parole. Et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, d'aller avoir des services de guérison, de chasser les démons, et de faire toutes sortes de miracles. Et quand ils sont revenus, Judas était avec eux. Maintenant, observez, vous, les Nazaréens, les méthodistes wesleyens, ils sont revenus dans la joie et dans l'allégresse. Ils louaient Dieu et poussaient des cris, parce que les démons leur étaient soumis. Et Jésus a dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Et souvenez-vous, Judas était l'un d'eux. Voyez, il pouvait séduire l'Église jusqu'à ce niveau-là. Tout ce temps, il œuvrait dans leur rang, vous savez. Mais quand on est venu à la Pentecôte, il a montré ses couleurs. C'est exactement ce qu'il a fait dans la première, dans l'église méthodiste, ce qu'il a fait dans l'église luthérienne, ce qu'il a fait dans l'église nazaréenne, dans les églises de Dieu et les autres. Ils en sont venus jusqu'à la sanctification. Quand on est venu au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue, au miracle et au prodige, ils ont condamné cela. Ils vous suivront dans la voie de la guérison divine. Bien sûr, Judas l'a fait aussi, voyez, mais quand il y a beaucoup de guérisons divines, il y en a là dehors, aujourd'hui, frères, qui se tiennent là pendant 2 heures et disent, vos récoltes vont brûler si chacun de vous ne leur donne pas 50 dollars par soir, et toutes sortes de choses de ce genre. Ça, c'est le diable, certainement. Je crois en la guérison divine de tout mon cœur. Mais ce genre de choses, c'est du diable. Absolument, c'est du diable. Peu importe combien vous pouvez faire ceci ou autre chose, Judas a lui aussi chassé les démons. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons par ton nom et fait des œuvres puissantes ?» Il a dit, « Si vous l'avez fait, je n'en sais rien. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai pas connu. » Certainement. Oh, frère, étroite est la porte, resserrez le chemin. Il y en a peu qui le trouveront. Nous parlons de ce peu, parce que nous sommes dans le dernier âge, où il doit y en avoir très peu. S'il vous plaît, mes frères, recevez-le. Ne pensez pas que je me tiens ici, je préférerais. Si cela ne dépendait que de moi, si cela ne dépendait que de moi, je pourrais faire des compromis avec moi-même et dire, allons-y avec les assemblées de Dieu ou un quelconque mouvement, rejoignons-les tout simplement et avançons ensemble. Mais, oh frère, malheur à moi si je fais cela, malheur à moi, je sais ce qu'il en est. Dieu m'enverrait en enfer pour avoir fait une chose pareille. Oui, monsieur, si je dois sceller mon témoignage de ma vie, eh bien, qu'il en soit ainsi, c'est tout. Parce qu'il y a en moi quelque chose, je ne pourrais pas le faire pour rien au monde. Je sais que ceci, c'est la vérité, et je dois m'en tenir à ce qui est la vérité. Et la Bible confirme cela. Les organisations sont contre cela, mais la Bible dit que c'est vrai, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et la sienne pour vérité. C'est la vérité, c'est ça. Tenez-vous-en à ça. Tout simplement, donne de ceux la synagogue de Satan. Très bien. Ils connaîtront, viendront à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Observez bien, je veux vous montrer que ce n'est pas de l'âge méthodiste dont je parle, mais du chevauchement. Regardez, êtes-vous prêt à l'entendre? Tout le monde, écoutez attentivement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi ce petit reste à l'heure de la tentation quand l'Église en arrivera au point où vous serez obligés de faire partie de l'organisation. Sinon vous allez en arriver là, frère. C'est tout. Soit vous formerez une organisation, soit vous prendrez la marque de la bête, soit vous organiserez cela, soit vous deviendrez une dénomination. Ce qui deviendra en fait la marque de la bête, parce que c'est un boycottage, voyez? Venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Maintenant, cette grande tentation, l'heure de la tentation qui viendra pour éprouver le monde entier, va jusque dans la tribulation. Nous verrons cela dans quelques instants. Cela va jusque dans la tribulation, et la tribulation n'est pas venue au jour de Wesley. Alors, dans quel âge sommes-nous? Quelle est cette porte qui est mise devant? Elle est entre Wesley et l'heure où l'Église se dirige en ce moment, où elle se trouve déjà dans l'âge de Laodicée. Mais ce petit intervalle juste ici, au cours des 35-40 dernières années, a été une porte ouverte, mise devant les gens pour qu'ils entrent. Et là, Dieu prendra le reste et le scellera. Puis les autres deviendront tièdes et les vomira de sa bouche. L'œuvre sera abrégée, l'Église montera et l'Antichrist entrera en scène pour la destruction. C'est vraiment parfait, ça concorde avec la Bible d'un bout à l'autre. Très bien, maintenant. Et c'est aussi là que la Vierge endormie apparaît. Ceci prouve que le dernier des âges de l'Église avance jusqu'à la première partie de la Pentecôte, car il continue vers la grande tribulation qui viendra dans l'heure, qui n'est pas venue dans l'âge de Wesley. Verset 11, très bien. Une couronne de vie. Le verset 11 dit, « Voici, je viens bientôt. » Quoi? Très rapidement après ceci maintenant, voyez? Voici, je retiens fermement ce que tu as. Tiens-toi à cela, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Qu'est-ce qu'une couronne? Une couronne signifie que vous avez un domaine. Si vous êtes couronné, c'est que vous êtes un roi, voyez? Nous sommes fils de Dieu quand nous sommes couronnés de la vie éternelle. Et notre domaine, c'est la terre, ce qui fait de vous des sacrificateurs et des rois pour Dieu, n'est-ce pas? Alors, voilà. Et là-bas, de la Nouvelle Jérusalem, les rois de la terre apportent même leur gloire dans cette ville-là. Oh, c'est merveilleux. Prenons, si vous voulez bien prendre ça, vous voyez, c'est comme des étoiles qui brillent, des couronnes. Daniel 12, 3, on donne une description très précise. Si vous voulez prendre cela en note, nous avons peut-être le temps de prendre cela pendant quelques minutes. Prenons Daniel, ce qu'il dit ici, au chapitre 12 de Daniel. Très bien. Commençons au premier verset du chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël. Voyez, oh, vous savez qui c'est. Se lèvera le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Qu'est-ce que c'est? Juste après ceci, la tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, la couronne, et les autres pour l'opprobre, pour le mépris éternel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oh, frère, voilà votre couronne, la glorieuse couronne de la vie éternelle, une couronne de la vie éternelle. Verset 12, très rapidement, juste avant que nous, je pense que nous partirons d'ici après cela. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous allons maintenant voir cela en vitesse, parce que j'ai déjà dépassé le temps de 5 minutes. Mais vous pourrez dormir un peu plus longtemps demain matin, n'est-ce pas? Maman, laissez-le dormir. Vous pouvez vous lever, c'est en ordre. Mais papa, un peu de difficulté à se lever. Mais laissez-le dormir juste un petit peu plus. Sortez très discrètement, préparez-lui son café ou ce qu'il prend, et il sera de bonne humeur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh, prenons ça mot par mot pendant un instant. Pouvez-vous me supporter encore un peu, juste un peu? Je sais qu'il fait chaud, et vous savez qu'il fait chaud ici en haut aussi. Mais voyons voir. Je ferai, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne. Une colonne, autrement dit, un fondement. Un fondement dans le temple de la maison, ou dans la maison de Dieu. Le temple de mon Dieu, ou la maison de mon Dieu. C'est une colonne, le fondement. Ceux-ci sont ceux qui ont pris la parole, qu'ils ont entendue, au verset 8, et qui sont retournés au fondement. Maintenant, prenons Éphésiens 2, 19, là-bas, à l'église d'Éphèse. Vous savez, vous devez retourner à Éphèse, c'est là le début, pas vrai? Très bien, retournons à Éphèse, où Paul était, à l'église qu'il a établie, et voyons maintenant où nous en sommes. Très bien, l'église d'Éphèse. Revenons maintenant en arrière pour voir ce qu'était ce fondement là-bas, et voyons ce que Paul dit de ce fondement là-bas, dans ce premier âge de l'église. Là, il parle aux Éphésiens. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des luthériens ou des baptistes. Bon, attendez, je me suis embrouillé, n'est-ce pas? Oh. Mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout est entré par la porte. Jésus. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, autrement dit, une partie du fondement. Que lui donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du début, et je lui donnerai la révélation. Qu'ont dit les prophètes à son sujet? Il est conseiller, prince de la paix, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est ce qu'ils ont dit, les prophètes, les apôtres. Et celui qui pourra vaincre toutes ces synagogues de Satan, demeurer libre et fixer son regard sur la porte, je ferai de lui une colonne. Je le remettrai dans le fondement de ma parole, dans la maison de mon Dieu. Oh là là, je le mettrai là, dans cette colonne, dans le fondement, où vous vous en tenez strictement à la parole. Amen. J'aime ça, frère. C'est bon. Je me comporte peut-être drôlement, mais je me sens bien, très bien. Ferai de lui une... Celui qui va vaincre, ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Qu'est-ce que c'est? S'il est une colonne, il n'en sortira plus. Il est l'épouse. C'est vrai. Comme l'âge d'Éphèse avait, comme Paul le leur avait enseigné dans Actes. Maintenant, attendez un instant. Si vous allez devenir une colonne, j'avais ici un autre passage de l'Écriture que je voulais vous donner avant que nous en arrivions à l'épouse. Maintenant, s'il doit devenir une colonne, il faut retourner à Éphèse. Il faut retourner à l'âge de Paul. Et Paul, l'ange d'Éphèse, qui était le début de l'Église, le fondement, leur a enseigné ceci. S'ils avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ, il fallait qu'ils se fassent rebaptiser. C'est vrai, Actes 9, ou 5, 19, ou plutôt 19, 5. Dans Galates 1, 8, il a dit, « Si un ange enseigne quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. » Ils étaient aussi l'épouse qui était dans le temple. Maintenant, prenons Apocalypse, chapitre 7. Voyons s'ils étaient l'épouse. Le chapitre 7 de l'Apocalypse. Maintenant, ici, nous parlons du reste d'Israël, les 144 000 et tout. Mais sautons cela juste un instant, et allons plus bas vers le verset 12. Dites donc, c'est une réunion pentecôtiste, là. C'est le peuple qui était, oh, voyez. Eh bien, nous allons commencer ici, au verset 9, parce que le premier concerne Israël. Il y en avait 144 000 qui étaient scellés. C'est ce que nous verrons demain. Et après ce, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Maintenant, souvenez-vous, de 4 à 8, il s'agit d'Israël. C'étaient les eunuques, les gardes du temple. Voyez, on verra cela demain matin, si le Seigneur le veut. Alors là, il scelle toutes les 12 tribus. De la tribu de Judas, il en a scellé 12. De Ruben, il en a scellé 12. De Gad, il en a scellé 12. De Lévi, de Zabulon et de Benjamin, 12. Combien y a-t-il de tribus en Israël? Eh bien, combien font 12 fois 12? 144 000. Et tous étaient les enfants d'Israël. Jean a reconnu chacun d'eux. Il était un juif. Après cela, voici, il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter. Voici les gens des nations, de toutes nations, toutes tribus, toutes langues. Ils se tenaient devant Dieu et l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ce sont ces pauvres créatures qui sont mortes là-bas, ceux que les lions avaient dévorés et tout, à cause de cet évangile du Saint-Esprit qui ruisselle de sang. Des milliers et des milliers de petits-enfants dont la tête avait été fracassée dans les rues et tout, les voici là, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Oh là là! Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Écoutez, si vous ne pensez pas que ça, c'est une réunion pentecôtiste, en disant, Amen, les louanges, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. On dirait qu'ils avaient un rassemblement, un campement là, n'est-ce pas? Ah oui. L'un des vieillards qui prit la parole m'a demandé, ou me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ?» Eh bien, tu es juif, tu as reconnu toutes les 12 tribus. Maintenant, qui sont ces gens? D'où sont-ils venus? Ils sont revêtus de robes blanches. D'où sont-ils venus? Ils ne sont pas de la tribu de Benjamin et des autres. Qui sont ces gens-là? Et Jean était si... Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Ça m'a frappé. Voyez. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis des grandes tribulations. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Car c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, à l'intérieur de la maison, et le serviront jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. On dirait qu'ils avaient eu un peu faim, n'est-ce pas? Ils n'auront plus faim, loin, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira dans les sources d'eau. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le voici, c'est lui. Voici l'épouse. Oh là là, comme c'est beau, l'épouse. Bon, voyons donc ce qu'il a dit ici, afin d'être sûr de ne pas le manquer. Verset 12. Celui qui vaincra sera une colonne dans le temple de mon Dieu et ne sortira plus jamais. L'épouse qui se tient là avec l'époux. Oh, 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 si nous avions le temps de voir ce que j'ai noté, c'est pour le livre plus tard. Là, dans l'Apocalypse, il est dit, tous les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est comme là, Antipe, la tribu de Lévi, tous les autres lui payaient la dîme, voyez-vous, d'une nouvelle lune à l'autre, d'un sabbat à l'autre, ils montaient pour adorer. Quel beau jour ce sera! Très bien, et je vais, voyons voir, ne sortira plus jamais, très bien, une colonne dans le temple de mon Dieu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Maintenant, quel est le nom de Dieu? Jésus. Si vous voulez prendre cela en note, il se fait un peu tard. Jésus, Éphésiens 3, 15 dit, dans les cieux et sur la terre, tous s'appellent Jésus. Voyez-vous? Très bien. Très bien, bon, très bien. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, je mettrai sur lui. Oh, si vous voyez, c'est toujours le même nom. Vous devriez déjà l'avoir saisi, voyez, voyez. Je mettrai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. La ville, il continue et dit que c'est la nouvelle Jérusalem. Voyez, la nouvelle Jérusalem. Je mettrai sur lui la nouvelle Jérusalem. Donc, l'épouse ou l'église, c'est la nouvelle Jérusalem. Combien le savent? C'est l'église elle-même qui est la nouvelle Jérusalem. Croyez-vous cela? Prouvons cela. Apocalypse 21. Je pense que c'est là que se trouve ce que je veux. Très bien. Jetons-y un coup d'œil pour vous le montrer. La Bible dit, éprouvez toutes choses. Voyez, maintenant, Apocalypse 21. Oh, écoutez bien ceci. Ceci. Écoutez ceci. Vous voulez voir ce qu'est sa nouvelle ville, le nom de Dieu, ce qu'elle est. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle église, c'est l'église des nations, l'épouse. L'épouse, ce sont des gens des nations, et les gens des nations portent son nom. Il a fait sortir du milieu des nations un peuple à cause de son nom. Vous croyez cela? Si vous ne le croyez pas, prenez Actes 15, 14 et vous verrez. Actes 15, 14. Si vous voulez bien prendre cela juste un instant et nous allons... Alors vous allez... Actes chapitre 15, verset 14. Je crois que nous allons trouver cela. Maintenant, nous sommes sur le point de terminer. Actes 15, verset 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Ah oui, très bien. La voilà. Oh, maintenant, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il reste. Et là, nous allons terminer en disant que c'est lui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. C'est tout le temps la même chose. Jésus, Jésus, Jésus. Et l'épouse est mariée à Jésus. Ce qui fait d'elle Madame Jésus. Et ainsi de suite, voyez. Il y a des femmes très bien dans ce bâtiment ce soir. Très bien. Mais il n'y a qu'une seule d'entre elles qui soit à moi. Elle porte mon nom. J'espère que vous avez saisi cela. Elle porte mon nom. Il en sera de même pour son épouse. Très bien. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend, ou de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de Dieu. Descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, est mon nom nouveau. Je ferais mieux de laisser ça de côté, n'est-ce pas? Très bien. Remarquez, lui est au singulier. Maintenant, si vous revenez à Apocalypse 2, 17, juste un instant, juste pour revoir cela un instant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Vous savez, j'aime chanter par l'esprit après une réunion où c'était trop chaud et tout. Pas vous? Oh, comme j'aime entrer dans l'esprit après cela. La parole. Vous voyez, la parole est descendue là. La seule chose dont elle a besoin, c'est d'humidité. Vous voyez, des louanges. Puis elle commence à grandir. Vous voyez, oh, ne l'aimez-vous pas? Alors, levons les mains et chantons cela. Courbons simplement la tête et disons, Père, nous t'aimons. Nous t'aimons. Oh, comme nous t'aimons. Seigneur, nous te remercions tant. Oh, notre pauvre cœur humain ne peut pas exprimer ce que nous ressentons en nous, car tu nous as lavés dans ton propre sang. Nous étions des étrangers, Seigneur. Nous aimions les choses du monde et nous étions tous embourbés, là, dehors, dans les choses du monde. Tu es venu par ta grâce et tu as étendu tes précieuses et saintes mains dans la boue du péché où nous étions. Tu nous en as sortis. Tu nous as choisis. Tu nous as lavés. Tu nous as nettoyés. Tu as mis en nous un nouvel esprit et tu as fait que nous nous affectionnions aux choses d'en haut, comme nous t'aimons, Seigneur. Dans cet âge qui est séduit, il ne reste absolument rien pour nous dans le monde, Seigneur. Il ne reste plus rien pour le monde. C'est le temps de la fin. Nous voyons dans la Bible que tous les âges sont passés. Nous sommes maintenant à la fin. Ça se termine rapidement. Très bientôt, Jésus viendra. Ô Dieu, enflamme notre cœur. Ne nous laisse pas nous arrêter. Je me demande ce qu'aurait fait le grand saint Paul s'il était ici ce soir et qu'il voyait les choses telles qu'elles sont. Comment lui, un tel homme, on le jetterait en prison avant demain matin. Il serait là à dire aux gens de se préparer pour la venue du Seigneur. En cette heure, Seigneur, il y a beaucoup de malades, puisqu'il y a des mouchoirs et des requêtes posés ici. Je te prie de guérir chacun d'eux, Père. Nous savons que c'est une partie de ton ministère, et tu prouves de façon infaillible que c'est la vérité, les miracles qui accompagnent le croyant. On prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul, et on les envoyait aux malades. Des esprits impurs sortaient d'eux, et ils étaient guéris, parce que les gens croyaient au Dieu vivant. Accorde-le encore ce soir, Père, alors que je te les confie par Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je te prie de prendre notre âme dans ta main, de nous laver, de nous repasser, parce que la parole a dit que tu viens chercher une église sans tache ni ride. Puisse le fer à repasser chaud du Saint-Esprit ôter toutes nos rides. Nous sommes suspendus, prêts pour la venue du Fils de l'homme. Maintenant, Père, nous prions que tes bénédictions reposent sur nous. Adore avec nous, Père. Nous t'adorons. Nous voici debout ce soir pour te donner notre cœur. Nous...